Et hop, toutes les caméras marchent. Oh, le cadre est incroyable. Ok, la lumière est ok ou pas? C'est un petit peu faible, on va voir. J'étais parti pour faire un petit thé. Vous allez bien? Ouais, la lumière est ok. La nouvelle chaise est en place. Hello, Dieu est tien. Non, 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 non. Tom, Tom, non. La religion, le culte, le culte du Samuel, c'est pour après. D'abord la présidentielle, ensuite une forme de dictature, soft quoi, cool, chill. Et puis après, on verra pour le culte. Non, non, chaque chose en son temps. Je vais relire un petit peu vos messages parce que j'étais pas trop sur le chat. Là, j'étais en train de faire un petit tweet et une story sur le programme de la journée, chargé. Dictature chill, j'adore l'expression. Ouais, je suis pas sûr que ce soit le truc le plus heureux, mais bon. Regardez-moi cette chaise gaming là, de l'espace. Regardez ça. On est pas bien là. Allez. Salut Framboise. J'aurais dû commencer il y a une heure le taf, et t'es au petit-déj? Ouais. Petite panne d'oreiller ou quoi? Allez bien là. Ça, là, je vais lancer un nouveau type de stream. Ce sera un petit stream chill. Je serai là. Tu vois, contenu minimum. Tu vois, juste des petits grognements de satisfaction. Là. Voilà. Tantôt, j'ouvrirai les yeux, je dirai le chat. On est bien là. Je suis très. ma première vraie chaise, quoi. Voilà. C'est le cadeau de mon amoureuse et de mon beau papa pour Noël. On vient de là. Non, c'est pas une chaise massante. Non, c'est une chaise de l'espace. C'est une chaise. Dans les films de science-fiction, pour piloter les vaisseaux, tu vois, les gros vaisseaux, les Enterprise, tout ça, il y a ça. Il y a ça. Pff, les accoudoirs et tout. Je suis là. Ah. Ouais, c'est une Secret Lab. J'en parle, c'est pas une OP, puisque c'est un cadeau. Voilà. Et je leur fais la pub gratuitement. Let's go ! Je vais être content. Ah. Toc, 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 qui est là, Sam? Ça me dit rien. Ça va. Ça va. Allez, j'en monte dans le chat parce que je vous ai pas du tout lu tout à l'heure quand j'ai lancé. Je planque mon tel, je suis au bureau. J'aime ça, remake. J'aime. Cette nouvelle chaise de gaming, Hard Rock Gamer, elle est incroyable, elle est incroyable, incroyable. J'ai même un petit coussin là. Un petit coussin là. Et t'es bien la musique, hein? Ouais. Ragnok, t'as perdu hein, ton sondage sur le sweat sur le hoodie. Hein. De toute façon, je me suis pas douché alors. Merci Xvavin, merci Darth Aliot, merci Tiraello, merci Morphal, merci Codis, merci Enduril, merci Sorbet Citron, j'avais pas vu. Putain, il y a du 29e mois d'abonnement de folie. Merci Le Breton, merci Sulfar, merci Foxy, merci Faker. Vous croyez que c'est le vrai? Merci Mathieu, merci Velaxis, merci Lins Lilou, merci Darth Aliot à l'instant pour le 24e mois. 2 ans, mon beau gosse. Ouais, je me suis pas douché parce que de toute façon, il y a un MVP à 18h ce soir. Ouais, Lucille, pour le dos, ça va être incroyable. Fini, peut-être même les tendinites, tout ça. Hein. Il y a un MVP ce soir à 18h, donc je vais me faire beau. En plus, on reçoit Manu Payette. Raid de fou, merci Citron Violet, petit raid depuis le Japon. Merci beaucoup. Donc pas de douche ce matin, j'ai lu les journaux parce que je me couchais très très tard pour bosser sur MVP, notamment pour l'interview de Manu Payette. Manu Payette, l'animateur, l'humoriste, le comédien. Il y aura Étienne Moustache aussi, qui vient dans l'émission de ce soir, là, qui commence à 18h. Et en fait, il a un nouveau spectacle, là, un nouveau one man, qui s'appelle Emmanuel 2. Au début, je me disais, mais pourquoi il appelle ça Emmanuel ? Emmanuel. Et là, je me suis dit, le film ? Non, Payette. Drag Race Super. Non. Pas Manu Payet. Non. 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 Pas Manu Payet. Non. Non. Si vous voulez lui faire plaisir, appelez-le Manu Payette. C'est-à-dire comme se prononce son nom. Hein. Parce qu'à La Réunion, parce qu'il est né à La Réunion, on dit Payette. Voilà. Et ça a été un vrai traumatisme. Pour lui, quand un jour il est arrivé, je crois que c'était à Paris pour un rendez-vous médical, il était tout petit et une infirmière l'a appelé Payet. Enfant Payet, c'est votre tour. Et là, il a regardé sa maman, mais de qui parle cette dame hein? Non, le T se prononce à La Réunion. Hein, donc Manu Payette, là vous lui ferez plaisir. Payette, tout le monde le sait ça. Tout le monde le sait ça. Oh. Voilà. D'ailleurs, Radio Payette, hein, le podcast qu'il a lancé, et il y a aussi une chaîne sur Twitch qui s'appelle Radio Payette. Je pense qu'ils sont en live actuellement. Là, je les ai vus ce matin, ils étaient en live. Mais il n'y a pas Manu dans le stream. Souvent, c'est une équipe, c'est l'équipe de Manu. Et souvent, il n'y a pas Manu. Mais c'est très, très bien. Et donc, Radio Payette, parce que Manu Payette. Incroyable. Et donc, je me suis demandé ce matin, mais pourquoi il a appelé son one-man show, qui est en train de tourner. Là, il est actuellement en tournée à travers toute la France. Et donc, il fait un petit stop pour passer sur la chaîne Twitch de Papy Sam tout à l'heure. Et pourquoi il a appelé Emmanuel 2 ? Et moi, je me suis dit, Emmanuel, le film ? Je ne peux pas vous montrer l'affiche, ça, c'est impossible sur Twitch. Je peux pas. Non, je peux pas vous montrer, je pense. Et voilà. Ah non, je peux pas. Ah bah non. Je peux pas. Ouais, oui. Très soft, l'affiche. Bah oui, mais non. Non. Emmanuel, c'était un film un peu érotique, quoi. Voilà. Et je me suis dit, ok, c'est un one-man show qui parle d'amour. Qui parle de parce que le sexe, ce n'est pas sale. Hein. Le sexe, c'est l'amour aussi. Hein. Quand ça part pas en... Voilà. Je vais où là ? Je vais sur quel terrain là ? Ça glisse, ça commence à glisser, je ne sais pas où je vais arriver. Et donc, pourquoi pas ? Et non, mais non, Manu. Mais non, et là, parce que je suis vieux, parce que je suis lent, parce que je mets des heures à comprendre les trucs. Manu, il ne s'appelle pas Manu. À l'état civil, c'est Emmanuel. Voilà. Ah, et le Emmanuel est devenu Manu, et le Payette est devenu Payet quand il a été confronté à des gens qui ne savaient pas comment ça se prononçait. Voilà, on sait toute l'histoire. Voilà. Tiens, je vous dis d'ailleurs. Hein. Tiens, je vous montre ce qui nous attend. Donc ce matin, c'est la revue de presse. Hein. On va lire les journaux ensemble. On va se régaler. Il y a des trucs vraiment intéressants dans l'actu. Mais vraiment. Voilà. Je suis content de faire cette revue de presse ce matin. Je pouvais pas lundi et mardi parce que j'étais en question pour un champion. Et puis, hop. Et puis tout à l'heure à 18h, c'est double stream aujourd'hui. Pas triple. Et je vous expliquerai pourquoi. Bah, tout à l'heure, il y a ça. Voilà. Le MVP. Hein. MVP, le magazine de Papy Sam. Qui explore les voies professionnelles pour que chacun puisse trouver la sienne, les plus jeunes pour l'orientation future, pour les plus âgés comme moi, ou ceux qui bossent déjà, peut-être pour se réorienter s'ils s'ennuient dans ce qu'ils font. Quoi. Voilà. Donc, spécial métier de l'automobile, est-ce que ce sont des carrières qui roulent jeu de mots, vers l'avenir, avec Ludovic B. 18h, je ne suis pas dispo, il y a une super émission à la télé. Ah ouais, et moi je vois. Avec le vieux là qui pose des questions avec des fiches jaunes. Ouais, je vois. Ludovic B, qui est le pilier, qui est un spécialiste des métiers et qui explore chaque semaine un nouveau métier. Ce sera un métier en lien avec l'automobile. Anna Honner, la streameuse, la youtubeuse. Bien sûr, je crois qu'elle avait participé au GP Explorer notamment, hein, et qui va nous parler des métiers de l'automobile, et notamment des métiers liés à la compétition. Ah ah, et oui, mesdames et messieurs. Voilà. Et Étienne Moustache. Bah, Étienne Moustache, est-ce qu'on présente Étienne Moustache ? Est-ce qu'on présente Étienne Moustache ? Donc ça, c'est la petite dream team de ce soir. Chacun avec de petites chroniques, voilà. Des petites surprises, il y a des jeux, il y a des machins. C'est chill, MVP, hein. Venez voir, en vrai. Hein. Avant, c'était à midi, puis on l'a déplacé à 18h en janvier, la nouvelle année. On trouvait ça mieux. Et puis, je vous parlais de Manu Payette. Où est-ce qu'il est, mon Manu ? Parce que lui, il est invité de la deuxième partie de l'émission. Rien à voir avec l'automobile, hein ? Je lui parlerai peut-être de bagnole, mais lui, il vient pour parler de son parcours, parce qu'on trouve que ils ont de vrais invités sur MVP. Ah bah oui. Attends, l'invité la dernière fois, c'était qui ? C'était qui l'invité la dernière fois ? On a eu Xavier Niel, on a eu Philippe Catherine. Mais la dernière fois, c'était qui ? C'était super. J'ai adoré. Jamy Gourmaud. Ouais, Jamy, avant Xavier Niel. Philippe Catherine, Eddie De Préto, vous suivez mieux que moi, et Manu Payette. Excusez du peu. Et donc, moi, pourquoi je me suis couché tard hier soir, mais genre à 2h du mat ? Parce que je suis rentré de question pour un champion, j'ai bossé sur le MVP, c'est-à-dire j'ai lu les chroniques, j'ai écrit un petit peu mes lancements, mes petites transitions, là. Bon, c'est pas très compliqué, mais ça prend un petit peu de temps. Et après, ben, j'ai regardé le one-man show de Manu Payette parce que j'ai eu la chance d'avoir un petit lien avec une captation de son one-man qui est en train de tourner. Là, et je me suis régalé. Je me suis et j'ai ça m'a détendu. C'est très chill. C'est un humour. C'est assez doux en fait. C'est une tranche de vie. Il se raconte, il se livre, mais c'est très chaleureux. Et puis ça me... il est plus jeune que moi, mais ça me parle quand même un petit peu parce qu'il a, il a quand même vécu des trucs qui me parlent. Il parle de la, de son addiction à la cigarette. Il parle de la paternité. Il parle de, d'amour. Il parle pas trop de travail d'ailleurs. Il parle de la Réunion, bien sûr. Il parle de, il parle d'amour. Enfin voilà, c'est hyper intéressant. Donc rendez-vous à 18h pour MVP. Et ce matin, c'est la revue de presse. Voilà, pas mal le petit programme, non? Ouais, je vous lis un petit peu. Et puis on y va. Hop. J'ai les yeux qui piquent en ce moment. Donc c'est pour ça. Donc là, donc c'est pour ça qu'il n'y aura pas une troisième, un troisième stream ce soir, parce que bah, du coup là, je vais me concentrer sur MVP et vendredi. Et là, je vais le taffer, ça. Et vendredi, on a un autre stream très important. Un des plus gros que je vous ai proposé sur ma chaîne en 4 ans et demi. Voilà. Il était un jeu. Comme il était une fois, sauf que là, ce n'est pas un, un conte, quoique, c'est un jeu. Il était un jeu, un grand quiz sur l'univers de Disney+, c'est-à-dire plus... Star Wars, Indiana Jones, The Bear, tout ça, que les dessins animés, quoi, vous voyez. Donc Disney+, voilà. Avec donc quiz, bien sûr, culture générale, épreuve inspirée de l'univers de Disney+, trois duos qui vont s'affronter, des duos de fous, avec Margot, Gomard et Xari, le Fast, Catsup et Henri Tran, qu'on a beaucoup reçu, et l'ami Natou et Just Riad. Voilà. Avec, donc ça, ça va être sympa. En plus, on va raconter ce jeu comme un conte, avec des pages qui se tournent. D'ailleurs, c'est assez joli, on a bossé. Et on a une grosse surprise incroyable au milieu de ce stream. Je ne peux rien en dire, il faudra être là. Avec du public, c'est dans un théâtre parisien. Et on a fait gagner des places gratuites déjà par deux fois. C'est full, c'est... complet. Pourquoi je vous parle de ça? Ah ouais, parce que du coup, il va falloir que je bosse l'émission, parce que bon, j'ai des invités, j'ai la mécanique, j'ai les questions, mais j'ai eu pas mal de taf ces derniers jours. Et donc là, eh bien, en gros, jeudi après-midi et vendredi après-midi, je vais taffer ça. Voilà. Du coup, c'est pour ça que je ne vais pas streamer ce soir, après MVP. En revanche, j'aurai la revue de presse. Sans doute demain matin et vendredi. Voilà. Ouais. Oh my god, Samuel qui va jouer dans le prochain Star Wars. Exactement. 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 Je vais jouer un enfant de Jabba the Hutt. Drag Race, super, excellente interview de Philippe Catherine. Une phrase m'a marqué, je la répète maintenant. J'ai toujours pensé que j'allais être en échec et parfois il y a des, eu des réussites. Il est incroyable, Philippe Catherine. Merci Mademoiselle Messi, merci Coco OFTV. Merci Bobodev, merci Mirette, merci Poum, merci encore Citron Violet pour le raid. Vous êtes formidables. Merci à Rock Gamer pour le message. Merci Sam de nous proposer toujours plus de formats sympas, le sub le mieux investi du Twitch Game. Non, 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 non. Il y en a qui font beaucoup plus, c'est beaucoup mieux que moi, mais je fais avec mes petits moyens et avec le fait que parfois je suis pris par d'autres trucs un peu par la télé, quoi. Je vous lis, hein. Vous allez parler du combat entre Pierre et Sylvain de Villebrequin en fin d'année? Hein? Quoi? Quoi? Ça y est, ils font des terres tous les deux. Oh! Imaginez. 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 Billy qui nous annonce qu'à l'affiche. Oh! Mais c'est le combat que tout le monde voudrait voir. À l'affiche de Déterre 2, il y a Sylvain Lévy et Pierre Chabrier. Oh! Mais tout le monde va vouloir regarder ce, ce combat, quoi. Ce serait incroyable. Bonjour au Gabon. Salut Claude Safou. Incroyable, on regarde depuis le Gabon. Incroyable. Tu fais pas non plus un entretien à la radio à 18h pour faire tous les médias en même temps? Non, à l'air one, c'est pas prévu. Pas prévu. On ne peut pas tout faire. On ne peut pas faire la télé, la radio, Internet, Twitch. Non, on ne peut pas tout faire. Et là, on découvre que le duo est encore pote et qu'ils nous ont grugé depuis le début. Ouais. Bonnie Claire, ouais. Vraiment? Tu crois? Est-ce que le live de vendredi est safe à voir en fond avec un enfant de 7 ans dans les parages? Ouais, le poule pirate. Ah ouais. Ah oui. Tu peux. Oui, tu peux, tu peux. Ouais. Ce sera. Pour le coup. Ouais, pour le coup, il n'y a pas de souci. Pour le coup, il n'y a pas de souci. Vraiment, c'est hyper safe, quoi. Hyper chill. Ragdoc, mais ils sont potes, c'est sûr. Ah oui, Sylvain et Pierre, ils sont potes, oui, ça se voit bien, ouais. Ouais. C'est pour ça qu'ils sont, qu'ils veulent aller en justice. Oui, bien sûr. Bien sûr, nous sachons. Ouais, bah ouais, bien sûr. Bien sûr. Mais oui. Merci à toi, Willy. Merci, Coco. Franchement, toi versus étoile, tu montes sur le ring ou tu le défiles. Jamais je pourrais frapper Ryu. Impossible. Impossible. Ah bah non, non. Ah bah non. Ah non, non, non. Impossible. Ah non, non. Que penses-tu de la sexualité chez les chimpanzés? Andrea, je vais bosser le sujet. J'avoue que j'ai pas d'avis là tout de suite. Là, là tout de suite de bon matin, parce que c'est le matin là pour moi. Je n'ai pas d'avis. Bien sûr qu'on va parler de submersion rat ce matin. Ouais. C'est les mots de François Bayrou, ça. Bien sûr. Sam avec les gants, j'en pleure. Peut-être. Peut-être. Dans un métavers. Peut-être. Peut-être qu'on fera ça. Ouais. Je suis bien là. Je suis bien sur. Attends, je me demande si je peux pas monter ma. Oh là là. Et regardez, si je monte ça. Incroyable. J'ai ma main qui est à la hauteur de ma souris. Donc mon bras repose. Oh, oh là 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 là! Hein? Tu en penses quoi de ce qui passe aux États-Unis en ce moment? On en parle quasiment tous les jours, bonne question. Ouais, ça, on est bien là. Attends, je vais monter. Sur. Donc du coup, je monte celle-là aussi alors. Ah ouais. Ah ouais. Ouais. Et si on mettait le petit truc pour le pour la nuque là? Je vais pas du tout streamer de l'actu là, je vais juste régler ma chaise. Hein. Oh, c'est stream, j'ai menti, c'est un stream chaise. Hein. Quel flexeur, ça flex, ça flex. Flex à mort même. Ah. Oh, ça se règle. Je vais jamais pouvoir bosser, je vais dormir en fait. On est bien là. Ah, on est bien là. Ah, on est bien. Ah, mais c'est trop confortable même. Waouh, c'est une folie. C'est une folie. Ouais, il manque le repose-pied. Ouais, il manque le. Ouais, il manque le petit repose-pied à ronce, t'as raison. Ouais. bon, le gaming, quand est-ce que ça revient là? Parce qu'attendez, revue de presse ce matin, revue de presse demain matin, revue de presse vendredi matin, MVP ce soir, il était un jeu vendredi à 20h. Ouais, il y aura peut-être du. Oh là là, il y aura pas y aura beaucoup de gaming. Hein. Ce soir, je pense que je vais pas streamer du gaming. Jeudi soir, peut-être pas non plus, parce qu'il y aura revue de presse le lendemain et. Une fois vendredi, ah, vendredi soir, un petit peu de Valo, je pense. Vendredi soir, parce que samedi, je vais peut-être aller voir mon papa en coup de vent. J'ai des trucs à faire en Bretagne. Et puis, oh, et dimanche, dimanche, il y a bah oui, vendredi soir. Ah, mais non, vendredi soir, je suis bête. Vendredi soir, il était une fois. Ah oui, ah oui, je vais pas streamer face à moi. Ah, mais c'est con, ah, c'est non, mauvais move, mauvais move. Ah, oui, ah, oui. Ah non, c'est con ça. Mais oui, je vais pas streamer face à moi. C'est débile. C'est pas que c'est oui. Mais oui. Et je suis un peu con là. Je suis un peu con. Oh, vous avez pas beaucoup streamé alors. Ah, oh, mais je vais pas streamer le gaming alors. Ouais, ok. Ouais, il y a dimanche, il y a un Samplay. Je voulais pas, je l'ai pas posté encore. Non. Comme on est entre nous là, je vais vous dire peut-être vous dire qui on reçoit dimanche dans Ça me plaît. Je suis content de le recevoir. Ouais. Bon, vous dites la personne parce que j'ai pas posté le visuel. Hein. Ok. C'est Flamby. Dimanche soir, dans Ça me plaît, il y aura Flamby. Ça va être un super stream. Ouais. Ça va être bien ça. Non, pas François Hollande, l'autre. Mais non, pas Hollande. Vous connaissez pas Flamby? Flamby, le streamer, quoi. Hein? La bande à Byline, tout ça, quoi. C'est pas un stream qui se démoule. Bah, arrêtez avec Flamby, c'est bon. Putain, les rêves de vieux, là. Putain, ça y est, les mecs, ils vont nous poster leur photo du yaourt, là, avec la petite languette. Ça va, on sait que vous êtes âgés. C'est pas la peine d'avoir des rêves comme ça du 19e siècle. Ce serait sur quel jeu? Je sais pas. C'est un jeu. Je crois que c'est un petit jeu d'horreur, je crois. Tu essayes de nous faire passer pour des vieux alors que tu as failli dire Star Trek à la place de Star Wars? Ah, tu m'as. Ah, Gabriel, tu t'es rendu compte tout à l'heure quand j'ai hésité là? Ok, ok. Merde. Merde. Il y a Aurélien qui écrit pas de blague sur gober un flamby et juste dessous, il y a Trappist qui écrit tu vas gober du flamby. Trappist, tu pourrais lire le chat avant d'écrire des conneries. Aurélien écrit littéralement pas de blague sur gober un flamby et tu écris sous la ligne d'en dessous tu vas gober du flamby. Tu te fous de notre gueule en fait. Tu te fous. Hein? Dingue ça. J'aimerais bien voir une petite interview où Flamby parle un peu sérieusement, ça peut être méga intéressant. Bah avec moi c'est toujours ça. Hein. Avec moi tu prends les plus déglingos, ils arrivent chez moi et tout de suite ça parle sérieusement parce que bah ouais. Hein, chevalier des arts et des lettres, hein, c'est-à-dire qu'en fait ici. Ah bah oui, ici, c'est la poésie, la philosophie, le sens de la vie, tout ça. Ah bah ouais, tout de suite. Voilà. Et oui, du coup, on découvre nos invités sous un autre regard. Ok. Vide. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait de Vida, Vida, Loca et ouais, est-ce qu'on banne Dev direct? Vu que ton premier message pue la merde, littéralement. Ou est-ce qu'on te fait un petit Théo? Je te fais. Hein? Parce que c'est peut-être de l'humour raté. Voilà. C'est peut-être de l'humour raté. Moi, je plaide pour la seconde chance. Donc, tu as 10 minutes. Tu vas dans ton coin, tu réfléchis. Et on espère que ton deuxième message, il aura de la gueule. Merci, Flynn. Merci, c'est Yaruki. Je vois tout dans le chat. Pensez pas à passer entre les mailles du filet. Hein. Merci, Eko Eko. Merci, Toweli. Merci, Coco. À nouveau. Ici, le premier message est très important. Faites très attention à votre premier message. Le premier message, il envoie un signal très fort sur qui vous êtes, quoi. Voilà. Donc, tu vois, voilà. Datableur écrit premier message sur cette chaîne. Salut tonton, tu vois? Ça? G1, tu parlais de Bretagne tout à l'heure, on peut savoir quelle région. Rennes, il est vilaine. Tu vois, je vois un bonjour tout le monde qui a un premier message. Voilà, il y a des gens qui savent faire des premiers messages, tu vois. Bonjour, bon matin, voilà, ça sera de la gueule. Bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous pour les messages d'Adoy? Voilà, voilà. Bah oui. Hein? Voilà. Ça, c'est du premier message. Bonjour à tous, ça, c'est du premier message qui a de la gueule. Vous voyez? C'est pas compliqué. Hein? Bonjour, actuellement dans les mailles du filet, je me sens pas très bien. Pouvez-vous m'enlever? Me dit Monkhead. Bah oui, mais non, mais fallait pas. El Pacino, tu sais faire un premier message, ouais. Oui, il y a eu un caca, mais caca, ça va par rapport à d'autres messages. Merci, l'arrogance. Merci, Banonos. Ça fait plaisir. Ça. C'était quoi ton premier message, Cague rue de la République? Attends, je vais te dire. Ton premier message, c'était le 28 mars. C'était « Espèce de vieux crouton, quand est-ce que tu dégages de Twitch, grosse crotte. Pas terrible. Ouais. C'est pas terrible par contre. Non, pas du tout. C'était. Salut Sam, vraiment cool ton émission. Tu es sûrement une personne qui va me mettre sur Twitch. C'est mignon, non? Mais non, je déconne. Oh là là, la team premier degré là. Au contraire, c'est quelqu'un de très gentil, très urbain. Bon, 30 minutes d'intro à la seconde près. On va y aller. les amis, c'est parti. Voilà. Je vais vous faire un petit sommaire. Ah bah attends, il faut que je prenne mon menu. Je vais vous dire de quoi on va parler ce matin. On va être ensemble jusqu'à 12h30, je pense. Oh, quelle heure il est ? Quelle heure il est ? Ouais, petit 12h30. Après, j'irai me préparer pour mon après-midi, puisque en gros, je vais à 15h au studio, parce que j'ai une séance photo. J'aime pas ça, moi. Ensuite, à 16h, j'ai des petites chroniques à enregistrer rapides. Et à 18h, j'ai MVP. Merci, Swazan. 85. Voilà. De quoi je vais vous parler aujourd'hui ? Alors, attendez. Hop. Déjà, la tablette marche, ce qui est formidable. On ira voir. On va beaucoup parler d'IA. On va... Ouais, je vais refaire une photo bonnet, mais pff, je suis vieux, je tout s'affaisse, j'ai arrêté le sport, je ressemble plus à rien. C'est pour ça que je me sers de mes photos d'il y a 10 ans. C'est parce qu'en fait. Radio Paillette vient de nous faire un raid. J'ai parlé de Radio Paillette tout à l'heure. J'ai parlé de vous, les amis, parce que j'avais vu que vous étiez en live. Voilà. Et j'ai dit, oui, Radio Paillette, ils sont en live ce matin. Et vous me faites un joli raid, c'est gentil. Alors qu'on reçoit Manu Paillette. J'ai expliqué à tout le monde pourquoi on disait Paillette, c'est pas Paillé, bande d'ignorants, tout à l'heure dans MVP. Et alors, je vous ai vu, hein, les filles, parce que vous étiez toutes les deux ce matin en live, et je vous vois souvent, voilà, la bande de Manu. Mais on est d'accord que sur Twitch, Manu, il passe pas. Hein ? On est d'accord que c'est plutôt la team, hein, de Manu. Mais on est d'accord que Manu, il est peut-être passé au début, mais je ne le vois pas en live sur Twitch. Si. Il passe quand il peut. Okay. Ah, bah je pourrais lui en parler ce soir. Bon, j'ai vu, je parlais avec la commu du spectacle Emmanuel 2, là, que j'ai eu la chance de voir un peu en avant-première, dont on va parler ce soir avec Manu. C'est super. Ouais, Manu vient sur Twitch, mais rarement. Faut lui en parler. Ok, super. Bon, bah, je pourrais dire que vous m'avez raid ce matin. Trop bien. MVP commence à 18h, je pense que Manu va passer vers 19h30 ce soir sur ma chaîne. Ouais, le spectacle est top. Le spectacle est top. Oui, ils font des podcasts, c'est ça. Ouais. Donc, parce que Radio Paillette, c'est des podcasts et des streams. Hein ? Trop bien. Merci pour le raid, c'est adorable. Allez, on peut épingler la chaîne Radio Paillette, les modos, s'il vous plaît. Comme ça, tout le monde va les follow. Merci, vous êtes Sugar Frog, bande de champions. Manu, il est à l'étage au-dessus de Radio Paillette et des fois, il descend. Et des fois, Manu, il descend. Putain, je viens de comprendre la blague. Bravo. Non, mais non, je veux pas de shout-out, moi. Non, moi, je veux épingler comme Sugar Frog a fait, là. Non, je veux la vraie mise en avant, c'est on épingle, il y a le lien en haut, on clique, bam. Voilà. Shout out, là, tu vois rien du tout. Non, c'est faux épinglé, comme ça les gens voient bien, ça clique et tout. Tu laisses un peu, comme ça on booste un peu les followers, quoi. Shout out. Merci, Manonos. Trop fort, les filles sont géniales. Super team avec Manu, on a une chouette commu. Ah, bah ça, j'en doute pas que vous avez une chouette commu. Ça, j'en doute pas. Bon, allez, donc, au moment où on a eu le super raid de Radio Paillette, j'étais en train de dire de quoi on allait parler. Ce matin, on va beaucoup parler d'IA, d'intelligence artificielle, voilà, et notamment chinoise, et même surtout chinoise. Ouais, je vais vous montrer la une du Monde, qui est un des journaux qu'on lit. Ça y est, ça, c'est marrant, c'est le... Ah, attends. J'ai un petit conflit avec mon iPad en ce moment. Ouais, DeepSeek, exactement. Vous voyez ? C'est intéressant. Il y a un petit conflit avec Le Monde. Ah, c'est intéressant. Ah. Ok, c'est pas grave. Je vais contourner. Ah. Hop. Je sais comment je vais contourner ça. Ah, c'est rien. Voilà. Hop, voilà. Regardez, la une du Monde. Alors, il y a plein de journaux qui en parlent ce matin. Hein. IA, le chinois DeepSeek, ébranle le secteur. Il y a à Wall Street, là, c'est un peu la panique. La start-up chinoise a donc rendu public un modèle aux performances comparables aux leaders OpenAI et Google, mais d'un coût beaucoup moins élevé. On va voir. Hein. Il y a des élèves qui disent que ça sent le gros mytho de la Chine. Voilà, c'est à vérifier. Voilà. À l'inverse, il y a TechNow qui dit « J'ai testé DeepSeek en fou, c'est vrai. L'arrogance, DeepSeek, honnêtement, je suis tombé amoureux tellement il est bien. » Ok. Pour expliquer sa surprenante efficacité dont les viewers parlent en ce moment, DeepSeek dit avoir utilisé plusieurs techniques innovantes pour optimiser la quantité de calculs. annonce qui a provoqué un véritable séisme, je vous le disais, sur les marchés financiers, faisant éclater la bulle de l'intelligence artificielle qui porte le Nasdaq. Voilà. Vous avez quand même Nvidia, qui est une énorme boîte, hein, le fabricant de semi-conducteurs, qui valait 3500 milliards de dollars, espèce de dinguerie, qui a vu sa valeur perdre 590 milliards en une journée. Vous avez près de 600 milliards de dollars qui ont flambé, qui sont évaporés en bourse, hein, en bourse. Tant que tu ne vends pas, ce n'est pas perdu. En une journée, quoi. Aux observateurs qui appellent à la prudence par rapport à ce DeepSeek, les responsables de l'entreprise rappellent que leurs modèles sont ouverts. C'est hyper intéressant. Donc il y a un article qui est page 18. Voilà, qu'on ira lire. Le chinois DeepSeek ébranle le secteur de l'IA. Je dis qu'on lira puisque on est dans le sommaire. C'est pas le seul journal à en parler. Si je vous emmène du côté de Libération, c'est du petit bruit, des petits bruitages aussi. On est foufou. C'est la une de Libé. Hein. DeepSeek, le casse-tech chinois. Ha ! Jeu de mots. Merci, c'est le 12 pour le prime. Jeu de mots. Le casse-tech. Hein. Pas le casse-tête. Pas le casse-tex. Non, le casse-tech. Ils sont très forts. Plus simple pour les bruitages. C'est offert. Le robot conversationnel lancé lundi. Hein. C'est tout récent. Hein. On est à la pointe de l'actu ici. Qui remet en cause l'hégémonie américaine en matière d'IA, a provoqué un séisme boursier, c'est une dinguerie, et inquiète sur le terrain politique, et boum, et une page, et deux pages, et trois pages, et ça c'est une pub pour Bouygues, hein, trois pages d'articles dans Libé sur ce sujet. Vous voyez, c'est pas, ça passe pas inaperçu, quoi. Et même le Figaro en parle, et on ira aussi voir cet article, page 30, hop, pour voir ce que le Figaro en pense, pour voir s'il y a des infos en plus, quoi. Où est-ce qu'il est ? C'est pas page 30 ? Ah voilà. Les secrets de DeepSeek, la start-up chinoise qui bouscule les titans américains de l'IA. C'est vachement intéressant, hein ? Ouais. Je sens que les Américains vont pas apprécier et vont encore crier au vol de données, me dit Blaster. Ça, c'est du premier message qui a de la gueule. Voilà ! Ça, voilà. Premier message, hein ? Bravo. Donc, on parlera de DeepSeek. Enfin, attention quand je prononce DeepSeek. Que je glisse pas parce que je peux vite partir sur des. Quand tu prononces mal, tu peux vite partir sur les dingueries. Je ne sais pas s'ils ont bien choisi leur nom. Enfin bon, je dis ça, je dis rien. Et alors la France dans tout ça, hein ? Et l'IA, la française, hein ? Bah, ça ne va pas du tout. Dans le Parisien, page 12. Ça ne va pas du tout. Ça va. Vous avez entendu parler de Lucie ? Ah, Lucie. Ah, ça rigole. Lucie MDR. Ça, vous avez la ref. Ah, Lucie, ça rigole. Oh là là, vous êtes au courant ? C'est une cata ? Ouais, je sais. Bye. Voilà. Le chatbot Lucie mérite-t-il d'être autant moqué parce que ça rigole dans le chat ? Y a Mocli qui me dit j'ai pas la ref. Bah, tu vas voir. Ce projet d'IA Made in France a donné des résultats parfois très fantaisistes et peu fiables. Tout le monde s'est foutu de la gueule de cette IA Made in France, Lucie. Est-ce que... Ouais, ils l'ont débranché. Ouais. Est-ce que ça méritait autant de moqueries ? Le Parisien nous dit, ouais, c'est un peu facile, ils étaient un peu en phase de test, ils l'ont peut-être lancé trop tôt, arrêtez de vous moquer, le French bashing... Voilà. Bon. Donc, pour le coup, c'est vrai que la concomitance du lancement de DeepSeek, qui a priori un truc énorme, et de Lucie, qui n'est pas une folie, voilà, qui n'est pas la seule IA à la française, hein, bien sûr. Hein. Tu vois, il y a Laenan qui me parle de Bloom, il y a Alvlo qui parle de Mistral, bien sûr. Non, c'est juste la dernière. Bien sûr. Ne pensez pas que l'IA à la française, c'est uniquement Lucie, bien sûr. Donc on lira ça. Je vous emmène ensuite, j'ai mes petites notes. Allez, ça c'est mon chemin de fer, c'est mon conducteur. C'est tous les journaux que j'ai lus ce matin et les articles que dont j'ai envie de vous parler. On ira parler de politique après. Ouais. L'histoire de la submersion migratoire. Qui a parlé de submersion migratoire ? Est-ce que c'est Marine Le Pen ? Est-ce que c'est, comment il s'appelle, celui qui a fait un super score à la présidentielle ? Comment il s'appelle ? Celui qui voulait tout casser et qui n'a rien cassé, là. Zemmour. Attends, je ne sais jamais. Est-ce que c'est Marine Le Pen ? Est-ce que Zemmour ? Non ! C'est le Premier ministre c'est François Bayrou. Aïe, 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 aïe. On va avoir Libération, page 10. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qu'il a dit ? Polémique, débat, etc. Submersion migratoire. François Bayrou à la dérive en adoptant une rhétorique d'extrême droite. Estime Libé sur l'immigration. Le Premier ministre a indigné toute la gauche, embarrassée. Le camp macroniste et accru le risque de voir adopter une motion de censure contre le gouvernement. Mais oui, il faisait un petit peu du gringue, un petit peu de séduction à la gauche là pour éviter une motion de censure. Et il parle de submersion migratoire. C'est politiquement malhabile, disent certains. Et surtout sur le fond, ça pose des questions. Est-ce que la France est menacée ou pas par une submersion migratoire? Ce sont des mots qu'on entend plutôt du côté. Tiens, je t'attendais, Yous Rusha. Sur ce sujet, tiens, comment ça se fait que t'as pas écrit encore, toi? Hein? Parce qu'ici, on a toutes les sensibilités. Du moment que les gens s'expriment correctement, ouais, moi, je suis OK pour discuter avec les gens avec qui je suis pas d'accord. Yous Roshan le sait, d'ailleurs, et écrit « Mais Bayrou a peut-être juste dit ce que pense la majorité des Français hein, !» Voilà, parce qu'ici, on discute, y compris avec les gens qui sont pas d'accord avec nous. Sinon, on reste entre soi, et ça n'a aucun intérêt. Voilà, donc, est-ce que la France est... est menacé par une submersion migratoire, vous aurez compris que Yous Roshan 2 pense que oui. Je pense que je vous ai mis plus d'articles que ça sur le sujet, parce que je trouve ça important. Ouais, les échos en parlent. C'est la une des échos, bande de beaux gosses. Regardez. Non, ça c'est l'équipe, Samuel. Tu confonds l'équipe et les échos. Les échos en parlent. Hop, on voit la première page des échos. Les échos, c'est quand même 44 pages à lire. Hein. Ouais. C'est vrai qu'a priori, il parlait plutôt de Mayotte. On verra ce point-là. On verra ce point-là. Pas mal, pas mal, pas mal. C'est ce qu'il dit en tout cas. Lui, il dit qu'il parlait de Mayotte. Ok, ok. Bayrou et le PS au bord de la rupture, la une des échos. En évoquant un sentiment de submersion migratoire, le Premier ministre a provoqué une crise politique. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Les discussions entre le gouvernement et les socialistes sur le budget ont été suspendues. Ah, donc il y a une vraie crise politique quand même. Le PS est accusé par le bloc central de vouloir faire monter les enchères pour renoncer à la censure. Voilà, le ministre de l'économie, Éric Lombard, a ouvert la porte à des ajustements sur les impôts, ça c'est autre chose. Celle douce, merci pour le prêt. Donc on lira ce dossier dans les échos, notamment les tensions avec le PS. Ça c'est la une des échos. Après, ah bah oui, bon, je vous ai mis d'autres petits sujets, enfin petits sujets, non pas petits sujets, sujets importants. Ça y est, il y a le texte sur l'éducation sexuelle à l'école qui va faire son entrée en classe, hein. C'est l'Humanité qui en parle, c'est un très bel article, très pédagogique, très clair. C'est page 10 dans l'Huma. Alors, viens petit Huma dans mon comic. Hop, page 10. Hop, hop. Hop. Notre société est foutue, nous dit Amnexu. C'est un poème que tu as fait, non? Amnexu, notre société est foutue. Oui, bien sûr, notre société est foutue, on va tous mourir. Alors, page 10. Page 10. L'éducation à la sexualité, c'est un petit haïku, ouais. Fera son entrée en classe en septembre. Le nouveau programme scolaire relatif à la vie affective, relationnelle et sexuelle devrait être adopté ce mercredi pour entrer en vigueur à la rentrée prochaine, de la maternelle au lycée. Non sans concession ni inquiétude après des semaines de polémiques. C'est un sujet sur lequel il y a eu beaucoup d'échanges, de débats, effectivement de polémiques. Voilà, moi j'ai attendu que ce soit qu'on y voit un peu clair sur le texte. Qui sera adopté, parce que c'est bien beau de faire des polémiques pendant des mois. Mais arrêtez, là, en maternelle, attendez de lire l'article, ça y est. Il y a les spécialistes de l'indignation, on n'est pas sur Twitter, les gars. Il y a déjà les spécialistes de l'indignation. Comment ça, maternelle? Comment ça? Ça continue. Comment ça, maternelle? Et ça continue. Attendez de lire l'article, putain. On n'est pas sur Twitter, là, les gars. Vous n'allez pas faire des vues, là, hein, ça ne va rien vous donner. Attendez de lire l'article. C'est un truc que j'essaie de vous expliquer, ça, ici. Hein. Ne débattez pas, ne vous indignez pas, alors que vous ne savez rien du texte. Hein. C'est ça. Ici, on apprend à réagir à l'actualité une fois qu'on s'est penché sur cette actu. Hein. Voilà. Vous comprenez ça? C'est important, quoi. On n'est pas sur Twitter. On prend le temps, ici. Hein. Vous n'allez pas faire des vues, là, en disant n'importe quoi sur n'importe quoi. Hein. On est là pour essayer de réfléchir ensemble de façon intelligente et apaisée. Voilà. C'est dingue, ça. Donc, on va lire cet article calmement tout à l'heure. Voilà. Et moi, j'ai fait exprès d'attendre parce que ça fait des mois que le débat dure, comme je le vois dans le chat, là, sur les 3-4, là, en disant « Oui, on n'est pas sur CNews. » « Quoi? Comment ça, maternelle ?» Voilà, ça fait des mois que ça dure, là. Et moi, j'ai attendu de voir quel texte allait vraiment passer. Parce que parler pendant des mois d'un texte qui n'est pas adopté au final, hein, c'est vraiment n'importe quoi. Ça, c'est bon pour les chaînes d'infos qui font du débat pendant des heures pour faire de l'audience, pour vous faire croire qu'on va tous mourir et que la société va s'écrouler. Mais ce n'est pas ce qu'on fait ici. Donc on lira ce papier de l'UMA qui, je crois, est assez clair sur le sujet. J'aime quand je m'enflamme pour rien. Là. Page 8. La croix. Ah. Alors quelqu'un disait on va tous mourir. En fait, oui, c'est vrai. Une de la croix, ce matin. Alors attends, je vous la montre. On est sur les bonnes nouvelles. On est sur de l'optimisme. On est sur de la chaleur. Plus 1,5 degré. Et après, le réchauffement mondial a dépassé le seuil symbolique de 1,5 degré en 2024, sans un sursaut des États. La possibilité de tenir les engagements de l'accord de Paris s'éloigne. Bon, vous en doutiez que le monde était très en retard sur la marche à suivre pour éviter les conséquences les plus graves des changements climatiques. Bon, eh ben, confirmation, et on a un dossier assez intéressant dans la croix. Est-ce que l'année 2024 va marquer l'échec de l'accord de Paris? Est-ce qu'on va pouvoir revenir en arrière? Faut-il s'attendre à des conséquences irréversibles? Vous présupposez déjà les réponses, mais on verra dans le détail ce qu'il en est. Voilà. Bravo la croix, hein, de Drill, Baby Drill, exactement, de se pencher sur ce sujet ce matin. Ça, c'est la croix. Je vous emmène du côté de... Ah, la question du handicap et de l'inclusivité ou pas de notre société. C'est un sujet dont je vous parle souvent, qui est très important. On restera dans la croix, qui est un journal et qui en parle ce matin, de l'inclusivité à l'école. Est-ce que ça progresse ou pas? Est-ce qu'on fait de plus en plus de place aux enfants en situation de handicap à l'école? C'est un truc dont on parle souvent. Et là, on a une petite photographie, un instant T, voilà, avec une nouvelle initiative, une expérience pilote qui est menée en Eure-et-Loir, qui s'avère prometteuse, hein, des équipes mobiles pour rendre l'école plus inclusive. Kezako, quelque chose de ce truc, c'est une petite initiative, on va voir si elle est intéressante. Et ce qui m'a intéressé aussi, c'est un point. Voilà, la loi sur le handicap de 2005, encore loin d'être appliquée. Donc c'est un truc que je vous dis souvent. Oui, notre société est plus inclusive qu'elle n'a été. Oui, heureusement, la France a fait des efforts ces dernières années en termes d'inclusivité des personnes en situation de handicap au travail, à l'école, dans les transports. Mais alors, on est très très loin d'avoir réussi ce défi, ça bouge, mais ça ne bouge pas assez, quoi. Donc la loi sur le handicap de 2005, encore loin d'être appliquée, le nombre d'élèves handicapés accueillis en milieu ordinaire a triplé. C'est ce que je vous dis, il y a des progrès, hein. A triplé depuis 2005, voilà. Pour autant, l'inclusion n'est pas encore toujours effective, certains restant sans solution. Ici, on ne va pas dire que c'est pire qu'avant ou moins bien, c'est faux. Il y a eu... Les messages, franchement, les messages, il y a des messages, les messages les plus fous, les messages vraiment qui inquiètent, je les épingle moi, parce que je trouve que c'est vraiment très intéressant. Attends, j'en ai vu un incroyable. Attends, c'est peut-être du second degré, attends, j'ai un doute. Ouais. J'ai un doute. Attends, je remonte dans ton historique pour voir si c'est de la connerie à 2000% ou de l'humour bizarre. C'est vrai que ton historique, il est pas foufou. Hein. J'ai un doute. En fait, Doremis, c'est toi dont je parle. En fait, tes messages, on ne sait jamais si c'est de la connerie absolue ou tellement c'est... Pardon, hein. Tellement c'est gênant de l'humour. Et j'ai lu 50 messages et je n'arrive pas à savoir si c'est complètement con ou si c'est une forme d'humour. Ouais, j'ai pas d'avis. Mais sur chaque message, quoi, c'est hyper inquiétant. Je ne sais pas quoi... Ouais. Non, c'est... Je sais pas quoi faire. Ouais. Doremis, tu c'est des vannes ou c'est ce que tu penses vraiment? J'ai un doute. Réponds-moi, mon chouchou. Réponds-moi. C'est ce que tu penses que tu écris ou c'est vraiment du troll? J'attends Doremus. Mon Doremus, fais péter. Je me pose une vraie question sur toi. Ah non, avant de l'épingler, je voudrais sa réponse. Doremus. C'est un talent d'humour et de second degré, mais je ferai gaffe, vous voyez? Il m'a répondu. Vous voyez? J'ai bien fait de poser la question. Ouais, essaye d'être un peu plus dans l'humour évident, en tout cas, parce que là, c'était pas évident quand même. Vous voyez? Hein. Il y avait un kappa, ouais, c'est pour ça que je me suis posé la question. Mais sur tous les autres messages, il n'y avait pas de kappa, donc c'était pas sûr. Donc, il y a des progrès, pas assez en matière d'inclusivité, donc on en parlera. Tu m'excuseras, hein, Doremus, mais il y a tellement de dingos parfois que je voulais vérifier si t'étais pas juste complètement fou, quoi. Bon, en même temps, maintenant tu peux. Bref, j'allais parler des États-Unis et dire une dinguerie encore. Tais-toi, Samuel, tais-toi, Samuel. Je cherche le numéro 10. Pas le numéro 10 dans ma team, mais le numéro 10 dans mes petites notes. Et on va parler de foot, et là, faudra m'aider parce que je comprends rien. Ligue des Champions, là, je suis nul. Je suis nul en foot. Comment ça se fait qu'il y ait 4 équipes en Ligue des Champions, là, française? Soirée popcorn! Voilà. Mais le popcorn, c'est le mardi. Mec a rien compris, tu sais. Stuttgart, PSG. Inter Milan, reviens! Reviens, petite affiche. Inter Milan, Monaco. Lille, Feyenoord, Rotterdam. Brest, Real Madrid. Mais c'est fou, ça. Ah, ils ont élargi la Ligue des Champions. C'est le format de la Ligue qui a changé. Mais il y a Brest, les gars. Il y a Brest qui reçoit le Real Madrid. Oui, je sais que Popcorn, a priori, c'est un peu terminé. Mais on n'est pas sûr. Hein? Peut-être qu'ils vont relancer l'émission sous une autre forme et que ça va s'appeler Hot Dog. On ne sait pas, ça. Voilà. Donc, oui, le Real Madrid, c'est fou, quoi. Mais pourquoi ils vont jouer à Guingamp? Parce que moi, ce matin, j'ai vu le Real Madrid à Guingamp. Et c'est Brest qui reçoit. C'est quoi cette histoire? Déjà ça. Comment ça se fait? Brest n'a pas de stade homologué? Oh merde! Oh putain, c'est. Quand vous savez ça, vous savez tout. Bon, voilà. Donc, ok, changement de format. Donc, 4 clubs français. C'est dingue, quand même. Brest, Real Madrid. Imaginez Brest qui tape le Real Madrid, quoi. Imaginez, quoi. Donc, voilà, il y a un papier là-dessus. Et il y a même un papier sur Brest dans le Figaro, je crois. Ouais, c'est page 19 dans le Figaro. Viens voir ça. Page 19. Ligue des Champions, la folle épopée de Brest qui défie le Real Madrid. Voilà. Ils ont déjà tapé des plus gros que le Real. Ah oui, tu mets un kappa. Ok, d'accord. Merci Cyril. Brest, Real à Brest, ils peuvent gagner en water polo. Ça rigole, ça rigole. Ok. Tu peux revenir sur l'article qui parle de DeepSeek? Alors, Chiperon, ce que j'ai fait, c'est un sommaire. Alors, le sommaire, c'est au début, tu parles très vite de ce dont tu vas parler, et après, tu développes. Donc, en fait, je vais revenir sur tous ces sujets. Ah, vous ne pensez pas quand même que ma revue de presse, c'est dire d'être crié très fort sur 3-4 dingueries, et puis après, d'aller faire une sieste. Non, c'est un sommaire, là. Après, je vais développer. Oh! Ah ben non, vous pensez que la revue de presse était « Ouais, ce matin, ça parle de ça, ok, let's go, 10 secondes. Ouais, la sexualité à l'école, ok, allez, 5 secondes, allez, fermez vos bouches. Ouais, puis aussi, ouais, la guerre en Ukraine, rapide, 5 secondes. » Non, 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 ça va durer 3 heures, ça va durer 3 heures. Donc, on parlera de foot, et puis on parlera, je crois, de cinéma et de musique, avec un manifestement, ce qui semble être un beau film. Pop, 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 pop. C'est « Dans la croix ». Un film consacré à Bob Dylan. Bob Dylan. Avec Timothée, je crois, Chalamet, c'est ça? Page 16 dans la croix. Ça a l'air d'une dinguerie, ça. Alors, c'est où, page 16? Vous voyez, j'arrive à compter encore, ça va. Je n'ai pas terminé. Bob Dylan. Météore de la musique. Consacré aux 4 ans qui ont fait de Bob Dylan un mythe, un parfait inconnu. Un parfait inconnu, c'est le nom du film. Montre sans le percer le mystère d'un créateur rebelle et génial. Jouant et chantant son rôle avec un rare mimétisme, Timothée Chalamet, on dit Chalamet parce qu'il n'est pas réunionnais, impressionne. Voilà. Donc ça a l'air sympa, quoi. Merci beaucoup, Coilfit. Voilà. Donc le film a l'air fine, quoi. Il est franco-américain, il parle très bien français. Ok. Ok, très bien. Ok. J'aime les gens dans le chat qui disent ouais, perso, je trouve qu'il manque un peu de. De... J'adore. Allez. Allez, jaloux. Attends. Ah ouais, je trouve qu'il manque un peu de charisme. Ah, j'aime. Non, je vois des messages dans le chat. Perso, je trouve qu'il manque un peu de charisme. Bon, moi, je n'y connais rien. Hein. Mais bon, ouais, c'est pas lui qui est dans Dune, d'ailleurs. Pas ça hein. Bon. C'est ça ouais. Et bon, je sais pas, après, c'est très subjectif. Hein. Les goûts et les couleurs, tout ça. Mais le perso, je trouve qu'il manque un peu de charisme. C'est quoi? Mais qu'est-ce que tu fais, quoi, Elfit? Oh là là. Quoi, 20? Regardez, les subs qui ont explosé, là. Regardez. 3092 subs, grâce à qui? À quoi, Elfit hein, qui vient d'offrir 20 abonnements. Pourquoi j'ai de la musique? Ah oui, c'était une page que j'ai ouverte. 20 abonnements à la communauté, quoi. Incroyable. Merci, Colfit. C'est adorable. Merci à le capitaine pour le deuxième mois. Et merci, Colfit, pour l'abonnement que tu as pris pour toi aussi. C'est fou, quoi. Incroyable. Merci beaucoup. Donc voilà, un petit sommaire sympa. Il y a pas mal d'actu ce matin. Hein, le PIB du Kenya, exactement. Oh, t'es con, quoi. Pourquoi tu dis ça? C'est fou. Mais non. 3000 subs, c'est pas le PIB du Kenya. Je sais pas, moi, je sais pas, il a l'air bien, cet acteur. Pourquoi tu n'as pas de charisme? Hein? Le père de Chalamet, c'était le correspondant du Parisien à New York, c'est vrai ça? C'est ouf. Mais non, Charlie, on est au début, on vient de faire le sommaire. Merci, Feltastic, pour le prime. Merci, Sidness, BZLH. Il est stéphanois? Attendez, il est stéphanois? Il est stéphanois? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Timothée Chalamet, il est né à Saint-Étienne? C'est un verre? Timothée Chalamet. Hein? Qu'est-ce que ça raconte? Né à New York. Ça commence mal, l'info Saint-Étienne, là. Origine et... Attendez, on va creuser. Origine et enfance. Timothée Al-Chalamet naît le 27 décembre 1995, c'est un gamin, dans le quartier de Hell's Kitchen à New York. Il est le fils du français Marc Chalamet, né à Nîmes. La piste Saint-Étienne en prend un coup. Hein. Hein. Son père est stéphanois, il est né à Nîmes. Voilà. Diplômé de l'Institut du Petit de Lyon, journaliste correspondant du Parisien à New York, c'est vrai. Sa mère, la piste Saint-Étienne, sa mère est l'américaine Nicole Flender. Donc, toujours pas. Alors, attendez, je creuse. Donc pour l'instant, on a Nîmes et on a New York, quoi. Voilà. La famille de sa mère d'origine juive de Russie et d'Autriche, bon, là, au niveau de Saint-Étienne, c'est toujours un peu faible. Est très présente dans le cinéma, ok. Ah, il faut remonter une génération. Depuis son enfance, Timothée Chalamet et sa famille passent régulièrement des vacances au Chambon-sur-Lignon, en Haute-Loire, dans une maison où habitait son grand-père paternel, Roger Chalamet, pasteur venu de Saint-Étienne. Voilà. Donc le papa du papa venait de Saint-Étienne. Voilà. Donc tu as tous les Stéphanois. Après, je peux comprendre. Hein. T'as tous les Stéphanois qui disent « Mais oui, bien sûr !»« Mais oui, Saint-Étienne !» Bon. Bon, on est... Faut chercher quand même la génération d'avant, quoi. Hein. Oui, mais il en parle quand il passe en France. Bah oui, mais il est malin, surtout. C'est évidemment. Ouais, la preuve, ça marche. Il parle tout le temps de Saint-Étienne. Bah, je sais pas... Quand il est en France, je pense que peut-être qu'il parle de Saint-Étienne. Il dit qu'il supporte Saint-Étienne parce que ça, je pense que ça c'est une assez bonne idée. Je pense que en termes de séduction, quoi. C'est un fervent supporter des Verts. Mais même aux États-Unis, il en parle. Non, mais en fait, vous êtes à deux doigts de me dire que le mec, en fait, il n'est pas du tout acteur et il est joueur de foot, quoi. Il connaît les chants des vers et c'est tout, et tout, et c'est ouf. Non, il connaît même les chants. Il met des stories où il regarde les matchs. Mais non, mais vous avez tout, non, mais vous avez tout confondu. Mais non, pas du tout. Mais non, c'est pas Saint-Étienne. Mais non. Vous avez tout confondu. C'est Samuel Étienne. Je voulais pas flexer, mais Timothée Chalamet est un supporter, un fan de Samuel Étienne. Pas Saint-Étienne. Le vert qu'il met en avant, c'est le vert de mon néon. C'est pas les matchs qu'il regarde, c'est les streams. Eh oui, c'est un fanboy, mais bien sûr. Mais oui. Mais oui. Non. Non, mais là, vous m'avez appris un truc. Je savais pas, en fait. Non, je fais le malin, je troll. Mais en vrai, je savais pas qu'il était supporter de Saint-Étienne et tout. Là, vous m'avez appris un vrai truc. Ok, donc c'est cool. Bah ouais, donc le mec est carrément sympathique, du coup, hein. Hein, on est d'accord. Moi, je le trouve sympa, ce gars-là. Je trouve qu'il est beau gosse aussi. Mais bon. Et puis, je sais pas, pour le peu de films que j'ai vu avec lui, je sais pas, il a de la présence, quoi. Je trouve. Merci, Sugar Frog, pour l'abonnement offert à Timothée Chalamet. Il est là, il est là. Normal, c'est un fan. Merci, FreddyPat72 pour le soutien. Merci, Crumpy Dobby. Fantastique, je t'ai remercié tout à l'heure, je sais plus. Oui. Presque trop sympathique. Beau, cool, bon acteur, riche. Bah, c'est comme ça. Moi aussi, j'ai de la présence, c'est juste qu'elle est non désirée, j'adore. Il regardait tes matchs à la Zidane et il a fait une story? Peut-être, peut-être. Peut-être. Kylie, je sais pas qui c'est Kylie Jenner. C'est qui Kylie Jenner? Je connais pas tout ça. Kylie Jenner, c'est qui? C'est une actrice? C'est qui? C'est une intellectuelle? Qu'est-ce que c'est qui Kylie Jenner? Il y a une page Wikipédia. Une Kardashian? Non. Kylie Jenner. Est une personnalité de la télé-réalité influenceuse américaine. Qu'est-ce qu'elle a fait dans la vie? Elle tourne dans l'émission L'incroyable famille Kardashian, qui filme son quotidien et celui de sa famille. C'est la sœur du mannequin Kendall Jenner, la demi-sœur de Kim Kardashian, Kourtney Kardashian, Khloé Kardashian, Robert Kardashian. C'est aussi la... Bon, d'accord. Voilà. Et elle est très suivie sur Instagram. D'accord, ok. Ah ouais. Ah bah alors là, ben je suis... Ah ok. Ok. Ah ben ok. D'accord, ok. Bon, je savais pas. J'apprends des trucs, hein. Merci Sarah. 37 mois. 37 mois d'abonnement. Dinguerie. Ok. Et l'astrophysicienne aussi? Non. Jérôme. Jérôme Levaneur. Tu vannes, Jérôme Levaneur. Jérôme Levaneur, tu vannes, non? Bon, soyons sérieux un petit peu là. Il est quelle heure là? Il est 11h13, les gars. Il est 11h13. Ça vanne, ça vanne. Vous ne pouvez pas être sérieux. Allez, on parle d'IA un peu là. Parce que ça, par contre, c'est manifestement, ça crée beaucoup de réactions. Merci, North Corrig, pour le soutien. Allez, allons-y. Allons voir le monde. Bim. Voilà. Donc, ça, c'est carrément. C'est la une du monde. Hein, dans la dernière édition. L'histoire de DeepSeek. IA, le chinois DeepSeek. Je m'applique vachement sur ce mot. Ébranle. Ils l'ont fait exprès là par contre. Ok. Ébranle le secteur. La start-up chinoise a rendu public un modèle aux performances comparables au leader. Ils l'ont fait exprès, ils l'ont fait exprès, c'est sûr. Juste pour me faire chier, quoi. Au leader OpenAI ou Google, mais d'un coût beaucoup moins élevé. Bah c'est pas moi, c'est le monde, hein. Comment ça mon ref, comment ça mon ref, c'est pas moi, hein. C'est pas moi qui écris des dingueries en une d'un journal hyper sérieux. Hein. C'est des fous le monde. Pour expliquer sa surprenante efficacité, DeepSeek. D'y avoir utilisé plusieurs techniques innovantes pour optimiser la quantité de calcul. Cette annonce a provoqué un véritable séisme sur les marchés financiers, faisant éclater la bulle de l'IA qui porte le Nasdaq. Lundi, le fabricant de semi-conducteurs Nvidia, que tout le monde connaît ici, hein, on en a tous dans nos PC, là, j'en ai un sous les yeux, là, la carte, là, qui valait 3500 milliards de dollars, ce qui est beaucoup, hein, a vu sa valeur perdre 590 milliards en une journée. Aux observateurs qui appellent à la prudence, qui disent « Ouais, c'est quoi ce truc chinois ? On n'est pas sûr que ça... » voilà. Oui, je sais que c'est un fabricant de semi-conducteurs arrobase. Bah oui. Non mais... Ah, vous me prenez vraiment pour un teubé, quoi. Non mais Nvidia, je vais t'expliquer ce que c'est Nvidia. Ah, vous me prenez vraiment pour un vieux con, quoi. C'est incroyable, ça. Aux observateurs qui appellent à la prudence, les responsables de DeepSeek rappellent que leurs modèles sont ouverts. Allez, page 18, let's go. Le mec est en train de m'expliquer ce que c'est Nvidia, quoi. Sérieux, quoi. Foutez de ma gueule, là. Allez, on y va. On y va. Le chinois DeepSeek, on s'applique, ébranle le secteur de l'IA. Ces modèles aussi performants, mais moins coûteux, c'est ça la révolution, que ceux de ses concurrents soulèvent les questions. Non, c'est pas... Mais fun fact, Elidia voulait s'appeler Nvidia. Elle voulait s'appeler... Elle a déjà raconté ça. Elidia, quand elle a cherché un pseudo, la streameuse, elle a dit « Je vais m'appeler Nvidia ». Et c'est son frère qui lui a dit « Non, non, c'est pas une bonne idée et tout, quoi. » Voilà. Moi, j'aurais pu m'appeler aussi, je sais pas moi, Logitech. Tiens. Comme pseudo, j'aurais pu prendre ça. Ou AMD. Ouais. Tractopel. Ouais. Square Enix. Ouais. C'était marrant, ça. Boulanger. Intel. Pentium. C'est pas un peu vieux, ça. Riot Games. Atari. Oh putain, vous êtes durs, là. Essayons de comprendre un petit peu ce truc. Focus, 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 comme dit... Il y a quelqu'un dans le chat, il y a Nebby Lynch, qui dit « Focus, 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 focus !» Merci, Norscoric. Près de 590 milliards de dollars... 564 milliards d'euros de valorisation boursière perdue en une journée. C'est le record historique battu par Nvidia, dont le cours a perdu lundi 16% de sa valeur. Bon, il paraît que ça a remonté de 10%. Si le leader mondial des processeurs spécialisés pour l'IA dévisse ainsi, c'est parce que les marchés sont impressionnés par DeepSeek. Une start-up chinoise qui a publié un modèle aux performances comparables à celles des leaders OpenAI ou Google, mais à un coût de développement inférieur en calcul informatique. Le choc pour la tech est massif. L'indice Nasdaq a plongé de 3%. L'investisseur japonais SoftBank avait bondi à l'annonce par le président Trump le 21 janvier de sa participation au gigantesque projet de data center Stargate, dont on a parlé ici, prévoyant 500 milliards de dollars d'investissement, a chuté de 6%. Les montants vertigineux sont à la hauteur des valorisations stratosphériques des entreprises liées à l'IA, depuis longtemps décrites comme une bulle. Est-ce que c'est une bulle, l'IA ? Mais il reflète aussi l'ampleur des doutes, voire la panique qui ont saisi les marchés. DeepSeek est le moment Spoutnik de l'IA, a même lancé dimanche sur X Mark Andreessen, qui est un des capital risqueurs les plus connus de la Silicon Valley, en référence Spoutnik au lancement du premier satellite soviétique. Donc ça ne rigole pas, quoi. Ça ressemble à l'irruption des voitures japonaises dans les années 60, lui a répondu un internaute. Est-ce que c'est un game changer, quoi, hein ? Je peux aussi dire DS pour DeepSeek. On va rester sur DeepSeek, c'est rigolo. En effet, DeepSeek semble faire aussi bien que les Américains, mais avec moins de ressources. C'est ça la révolution. Selon ses créateurs, le coût d'entraînement de son modèle V3 ne dépasse pas les 5 millions de dollars, soit environ deux fois moins de calculs informatiques que sur 2000 puces Nvidia H800. En comparaison, GPT-4, lancé à 4 en mars 2023, a coûté plus de 100 millions de dollars, a expliqué OpenAI, qui dépense 5 milliards par an en calcul. Donc en gros, DeepSeek fait bien avec moins d'argent, quoi. V3, donc DeepSeek V3, modèle de traitement du langage similaire à GPT-4 d'OpenAI, et R1, modèle de raisonnement conçu pour s'interroger lui-même plusieurs fois avant de donner sa réponse, et similaire à O1 d'OpenAI, ont des performances proches de celles de ses leaders, a priori. De plus, DeepSeek affiche des prix très bas. R1 coûte au client 27 fois moins cher par requête que 0.1. Son application gratuite a dépassé ChatGPT en tête des téléchargements d'applications. C'est quoi la source des 6 millions d'euros demande Ribon TV. Parce que si c'est les Chinois, très bonne question. Quelle est la source de tout ça? Vous allez voir, c'est une des questions. Alors, justement, certains mettent en doute tout ça. Et d'autres sont tout à fait impressionnés. OpenAI pourrait devenir le WeWork de l'IA. Alors ça, c'est pas très gentil. Écrit lundi sur X, un universitaire américain, référence au spécialiste des bureaux partagés WeWork, qui avait levé des milliards de dollars avant de s'effondrer en novembre 2023. Je vous lis pas tout l'article. Est-ce que la réaction des marchés est justifiée ou exagérée? Pour expliquer sa surprenante efficacité, DeepSeek dit avoir utilisé des techniques innovantes pour limiter les calculs en s'appuyant davantage sur l'apprentissage par renforcement, par lequel un modèle tente par lui-même des solutions et est récompensé quand il trouve une bonne réponse, et moins sur ce que font plutôt les autres, l'apprentissage supervisé dans lequel le modèle s'entraîne d'abord sur un jeu de questions-réponses. DeepSeek aura utilisé des nombres codés en 8 bits. Une définition moins bonne que le 32 ou 16 bits, mais plus légère en calcul. Enfin, l'entreprise utiliserait le Mixture of Experts, qui consiste à utiliser plusieurs modèles spécialisés mobilisés en fonction des requêtes plutôt qu'un seul généraliste, mais plus gros. Alors, certains observateurs appellent à la prudence, voire émettent des doutes sur l'avance de DeepSeek ou sur les conséquences pour le marché. D'après ce que je comprends, DeepSeek a 50 000 puces H100 dont ils ne peuvent parler en raison des contrôles aux exportations, a indiqué un PDG de start-up américaine. Voilà. Musk a aussi relativisé les chiffres de DeepSeek. D'autres ajoutent que les techniques de DeepSeek pourraient maintenant être copiées. Reste conclusion de l'article, et on va lire d'autres articles sur le sujet ce matin, que DeepSeek risque de secouer les leaders du marché car ces modèles sont ouverts, c'est-à-dire accessibles gratuitement et modifiables par les développeurs, même si les données restent opaques. Et DeepSeek est un acteur chinois. Trump pourrait donc se rendre compte que renforcer les sanctions contre la Chine la pousse à innover encore plus rapidement. Ouais, nouveau sujet de tension entre la Chine et les États-Unis. Je vous lis les beaux gosses. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Et après, on ira lire un autre article, je crois, dans le Figaro, sur le même sujet. En tout cas, c'est quand même la une du Monde. Arrobas me dit que l'ami Yanis, Defend Intelligence, on a parlé hier. Beaucoup de peur, mais en réalité, c'était pas aussi énorme qu'on veut nous le faire croire. C'est davantage politique que technologique. Dans quelques semaines, / mois, on n'entendra plus parler. La concurrence est toujours bien pour nous, les consommateurs, vous dites Chiperon. Je l'utilise déjà, me dit JK Best Boy, et je le préfère déjà. Et notre Mistral à nous, alors, on en est où? On sait un peu. On va parler d'une IA française, mais on va parler de Lucie dans un instant. Ça me fait penser à Mistral, AI, ils ont une approche similaire, mais eux sont français, on n'en parle pas du tout, Mathias. La presse en parle un peu ce matin. Ok. Ok. Il y a un autre article, je crois que c'est dans le Figaro, on va aller voir ça. Ouais. Non, dans Libération, pardon. C'est la une même, attendez, c'est la une de Libé ce matin, attendez. C'est la une de Libé. C'est la une de Libé. Regardez. IA, DeepSeek, le Castec, jeu de mots, chinois. Le robot conversationnel lancé lundi qui remet en cause l'hégémonie américaine en matière d'IA a provoqué un séisme boursier, donc c'est les mêmes infos et inquiète sur le terrain politique. Qu'est-ce que dit l'édito de Dovalfond? L'édito, c'est un article où le journaliste donne son avis. Non, pas Castex. Castec. Castex, c'est un jeu de mots. Castec. Non, laissez-le Castex, le pauvre. Merci Pépin Camille. pour le 36e mois. Folie. De quelle folie parle Dove Alphon? C'est un document technique de 22 pages qui est passé inaperçu pendant plusieurs jours. Les explications de produits d'une start-up chinoise dont personne n'avait entendu parler, ça c'est génial, DeepSeek, ont pourtant effacé lundi près de 600 milliards de dollars de valeur de l'une des plus grandes firmes américaines, le fabricant de puces Nvidia, ébranlant la confiance de Wall Street dans la révolution de l'IA et portant un coup aux géants américains. Ça, ok. DeepSeek affirme qu'elle a produit son chatbot maison avec un investissement de 6 millions de dollars. Voilà. Chiffre mythologique chez les geeks, mais probablement largement sous-estimé. Mais même si on le multipliait par 10, même si on le multipliait par 100, il resterait un affront au dogme américain. Et justement, parlant des produits américains, même en supposant que leurs produits, les produits américains, seraient meilleurs que ceux qui pourraient être inventés pour un millième de ce coût par des firmes chinoises, indiennes, israéliennes, coréennes, pourquoi pas françaises, le grand public en aurait-il besoin? Les PME qui étaient supposées acheter des abonnements au chatbot américain le feraient-elles pour des questions d'image ou de politique si un logiciel presque aussi performant leur était proposé gratuitement? En 1720, alors que les employés de sa banque s'étonnaient de ses investissements en mer du Sud, John Martin de la Martin's Bank avait fameusement expliqué « Quand le monde devient fou, nous devons l'imiter dans une certaine mesure. » Mais quand une folie mondiale apparaît soudain comme une bulle spéculative, les imitateurs disparaissent très rapidement, que ce soit en mer du Sud ou en mer de Chine. Bon, là, on part sur des trucs. Il est chaud, le Dove. Alors, certains, comme Yacine, estiment que c'est la méthode Free en France, hein, Free Mobile, donc Xavier Niel, que j'ai reçu il n'y a pas longtemps, la méthode Free Mobile à l'IA générative. De là à parler de version Wish, comme dit Jérôme. T'es en forme, Jérôme, ce matin, hein? Il est en forme, Jérôme. En forme de quoi? En forme de pastèque, bien sûr. Ou de deep sec. Ok. 30 mois, Kind. 30 mois d'abonnement. Merci vraiment de ton soutien à cette chaîne. Ok. Est-ce que j'ai un autre article là-dessus? Bah attendez, mais je l'ai pas lu l'article, j'ai juste l'édito. Lisons rapidement l'article de Libé. Peut-être qu'on aura des infos en plus. Ok. Déjà, qu'est-ce que DeepSeek? Hein, on va rappeler. Donc c'est le nom de la start-up chinoise, responsable de DeepSeek R1, devenue ce week-end l'application gratuite la plus téléchargée sur l'App Store. Déjà. Disponible sur ordinateur et téléphone, ce chatbot, un programme informatique simulant une conversation humaine, est capable d'écrire des poèmes, de rédiger un devoir ou encore de proposer une recette en fonction des ingrédients de votre frigo. Tiens, on m'appelle du Royaume-Uni. C'est drôle, ça. Je sais pas qui m'appelle du Royaume-Uni. En surface, l'outil est tout à fait similaire à ChatGPT, mis en ligne par OpenAI en novembre 2022. Toutefois, ses capacités à converser se trouvent être quoi? C'est ici la suite. Limitées sur certains sujets sensibles en raison de ses racines chinoises. Par exemple, il propose de parler d'autre chose lorsqu'il est interrogé sur le président chinois Xi Jinping. En revanche, DeepSeek est en open source, ça signifie que le code de l'application est accessible à tous, permettant de comprendre son fonctionnement, de le modifier, de se le réapproprier. Tout le contraire de ses rivaux, en particulier d'OpenAI, qui malgré son nom est le plus fermé de tous les grands modèles de langage disponibles. C'est intéressant. Mais, demande Libération, la start-up chinoise... Ah, c'est une arnaque, le plus 44 là? C'est une arnaque. De toute façon, je décroche jamais au numéro que je ne connais pas. On me dit, c'est intéressant, qu'il y a pas mal d'arnaques avec un plus 44 en ce moment. Merci King Julian, merci les autres. C'est une arnaque téléphonique. Voilà. Ok. Moi, je décroche. De toute façon, si je ne connais pas le numéro, je ne décroche pas. Comme ça. Ok. Moi, c'est... Ouais. Donc, faites attention. Précisément plus 447. All right. Donc, est-ce que c'est meilleur que ChatGPT? La start-up chinoise est-elle à ce point bluffante? C'est en tout cas ce qu'elle prétend, que ce soit dans son codage ou dans la qualité de ses réponses, son modèle de raisonnement présenterait des performances équivalentes, voire dépassant légèrement celle de ChatGPT. Sur leurs compétences, estime Libération, OpenAI et DeepSeek frôlent l'égalité. Mais il y a un domaine où la start-up chinoise rafle largement la mise, les coûts, qu'ils soient financiers ou énergétiques. C'est le point qui a affolé l'industrie et mis les investisseurs en alerte. Pour développer l'IA chinoise, seuls 2 mois et moins de 6 millions de dollars auraient été nécessaires, ce qui est évidemment que dalle par rapport aux investissements réalisés par pour les IA américaines. Centaines de milliards. Et surtout, il n'y a pas que le budget initial. La société chinoise avance n'avoir eu recours, il est très clair l'article de Libé, n'avoir eu recours qu'à 2000 puces H800 de NVIDIA, les moins avancées pour entraîner sa technologie, alors qu'en règle générale, les leaders américains utilisent 8 fois plus de ces composants électroniques énergivores mais utiles pour traiter de grandes quantités de données. D'où la chute du titre NVIDIA. Ok. Pas mal l'article de Libé. Peut-on vraiment croire à ces annonces? Ça, c'est la question. Musk, par exemple, accuse l'entreprise chinoise d'accéder secrètement aux puces H100 de NVIDIA, contournant l'embargo américain qui limite l'exportation de ces semi-conducteurs vers la Chine. Pourtant, il y a un expert, qui s'appelle Ben Thompson, lui qui a fait ses analyses et il dit non, on peut arriver à ce résultat avec des H800, donc ils n'ont même pas besoin d'accéder à des H100. Sur le budget de 6 millions de dollars, il y a des interrogations. On pense que le budget ne compte pas tous les coûts, quoi. Voilà. Mais bon, c'est que dalle. Donc, c'est quand même que dalle. Ok. Après, c'est une société chinoise. Et comme le rappelle Libération, forcément suivie de très près par les autorités chinoises. Ça rappelle les débats sur TikTok. Ok. Intéressant. Je vous lis. Hein. Salut, Defecator. Tu as le mug cœur. Bravo, Kain. Ouais. 30 mois. Source de Musk, modificateur, t'inquiète frérot. J'aime. Bonjour Étienne, appelle-moi Samuel Neokito, sinon c'est bizarre. Je me pose la question, niveau droit, tu peux diffuser les journaux ou ils t'ont donné les droits? Oui, c'est ce qu'on appelle la revue de presse. La revue de presse, c'est citer des parties des journaux. Ça existe depuis la nuit des temps en télé, en radio. Moi, je le fais sur Twitch. Ce qu'on appelle le droit à la citation. C'est-à-dire, je ne pompe. Évidemment, si je pompais intégralement le contenu d'un journal, si je lisais Le Monde, par exemple, tous les jours, bah, je volerais leur contenu pour créer un contenu, et ce serait évidemment très mal. Et je serais, je l'espère, poursuivi en justice. S'accaparer le contenu des autres, non. Mais si tu cites voilà, quelques lignes d'un article, d'un journal, et que tu parles d'autres journaux, dans le cadre de la revue de presse, que tu compares des journaux, leur analyse, c'est ça, c'est l'exercice de la revue de presse, là, c'est un truc qui est évidemment totalement légal et autorisé. Merci à Foxys. Merci Nyandra. Merci à tous les deux. Vous pouvez tous le faire d'ailleurs. Une petite mosaïque informative, exactement. Salut Chaka. Bon mémoire. Alors j'ai honte. Très bonne question de bonsoir mec. Est-ce que toi Sam, tu utilises l'IA? Non. Enfin si, sans le savoir forcément, parce que j'utilise des moteurs de recherche, des trucs. Qui dans lesquels il y a de plus en plus d'IA. Donc oui, je le fais sans le savoir, mais volontairement, en utilisant une IA, comme mon épouse le fait, par exemple, dans le cadre de son travail pour écrire plein de textes maintenant, non. Et là, je, Je fais pas de prompt et tout. Il faudrait que je m'y mette. Merci Moxie. Merci Lib. LibJCH. Merci pour le soutien. Ouais. Je pense qu'il faut que je m'y mette. Il faut que je me mette à prompter, quoi. Franchement, pour préparer les fiches des émissions, ça peut servir. Oui, voilà quoi. Merci VSO, c'est gentil. Ton épouse est juriste? Non, elle travaille dans le domaine de l'horlogerie. Et là, elle travaille dans l'univers des montres. Est-ce qu'on parle de Bernard Arnault ce matin? Je sais pas pourquoi vous voulez parler de Bernard Arnault. Balance la news, Marco, s'il te plaît. Est-ce que l'IA est mal vue dans le métier juriste? Non, pas mal vue. On s'intéresse à l'outil, on se demande ce qu'on pourrait en faire de bien et quels sont éventuellement ses dangers. Mais on prend pas, c'est pas un blocage, c'est un regard critique et interrogatif, quoi. Parce qu'il veut délocaliser à cause des taxes? D'accord. Je suis cuistot, me dit Samot, et j'utilise l'IA pour des idées de nouvelles recettes très pratiques, j'adore. Tu feras quoi de l'IA dans ton programme pour 2027? Je n'ai aucune idée, Gram. Je te nommerai ministre de ça, Gram, si tu veux bien. Ministre de l'IA. Parce que là, ouais. Tu prends ton frigo en photo pour faire de nouvelles recettes. À Lolo. Tu prends ton frigo en photo et il te propose direct des nouvelles recettes? C'est incroyable. C'est incroyable. Mais c'est surréaliste. Mais attendez, mais comment... Ah, ouvert! Ah ouais! Ah oui, parce que je comprenais pas. Je me dis, attends, le truc, il photographie le frigo et il dit des recettes, quoi. Ah oui! Ouvert quoi. Ah oui, donc tu photographies pas le frigo, tu photographies l'intérieur du frigo. Ah ouais, j'ai eu un doute là. Je me dis putain, ils sont forts l'IA quand même. Là, je me suis dit putain, je vais me mettre à l'IA direct quoi. Incroyable. Ah oui, ouvert. Okay. Ouais, tu photographies l'intérieur du frigo. Ok. Parce que sinon c'est très fort quoi. Merci Mokshi pour le Prime. Moi, je photographie. De toute façon, moi, je photographie mon intérieur de frigo. L'IA, elle me dit, bon, bah, comme on a bouffé sur des livres en vrai. Hein. Donc, c'est pas la peine d'avoir une IA pour ça. Quoi. Je sais très bien ce qu'il va me dire. Ok. Ok, t'as deux vieux bâtons de surimi, quatre Babybel. Ouais, du lait qui est sans doute périmé. Ouais, bah, commande la Deliveroo plutôt. Je sais très bien ce qu'il va me dire. Donc, c'est pas la peine. Ok, bon, intéressant quand même. Hein. On va suivre cette affaire avec. Oh, si, attendez, il faut que je vous parle d'une IA française. Pas Mistral, dont tout le monde dit beaucoup de bien, mais une autre. Alors, le hasard de l'actualité a voulu que tout le monde parle de Deep, quoi. Faut que je me concentre. De DeepSeek. Et en même temps, au même moment, il y a une espèce de dinguerie sur Lucie, qui est une IA française. Attendez, c'est où ça? 2, 3, 4. Ouais, c'est dans le Parisien, page 12. Lucie, ouais, je sais, je sais. Le chatbot Lucie mérite-t-il d'être autant moqué? C'est en dessous. Ce projet d'IA Made in France a donné des résultats parfois très fantaisistes et peu fiables. Tout le monde se moque de Lucie, là. Bonne Dan en maths et pas davantage doué pour répondre à des questions simples ou décalées. Lucie n'a pas brillé. Mise en ligne en fin de semaine dernière, ce robot conversationnel, conçu pour offrir une alternative française aux multiples propositions d'IA des géants américains et chinois de la tech, s'est pris les pieds dans le tapis. Et s'est attiré une pluie de critiques sévères pour ses premiers pas, certains internautes dénonçant sur les réseaux son niveau CP, d'autres allant jusqu'à évoquer même, nom de Dieu, merde, une honte nationale. Merde. Nous avons péché par naïveté, reconnaît le DG de l'Inagora, l'entreprise qui travaille sur le truc depuis de longs mois. De longs mois? Nous souhaitions faire connaître Lucie avant la tenue du sommet sur l'IA organisé en France à partir du 6 février, mais nous avons livré quelque chose d'imparfait. Ok. Donc le truc n'était pas prêt, ils l'ont quand même mis sur le marché pour des raisons d'agenda, quoi. Ce qui n'est pas l'idée du siècle. Nous pensions pouvoir compter sur les retours de la communauté des logiciels libres, d'habitude bienveillante, pour le faire fonctionner, mais pas avoir à gérer une tempête de French bashing très intense, mélangeant tout, les financements, la politique et la science. Au tonnerre de moqueries succèdent quelques retours plus positifs, même si les critiques perdurent vis-à-vis d'un robot promettant transparence, fiabilité et confiance. Et, d'où les accusations de gabegie et comment dire, de gaspillage de l'argent public, et financé en partie dans le cadre du programme France 2030 lancé par l'État. Hein, je comprends. C'est une petite erreur au démarrage, mais le projet reste très intéressant et prometteur, estime David Fayon, qui est membre du think tank Renaissance Numérique. L'erreur a été de faire comme aux États-Unis avec une version non terminée qu'on appelle bêta, soumise aux assauts de quelques utilisateurs pour repérer et corriger les erreurs. Ah oui, c'est la faute des utilisateurs. Ok. Une mésaventure qui a beaucoup énervé Rafik Smatik, entrepreneur du web et défenseur du développement d'outils IA français et européens, indépendants et autonomes. Pourquoi les œufs de vache? J'ai pas la ref. Je m'appelle Lucie, je suis gênée, mais non, Lucie Citron. C'est quoi les œufs de vache? C'est une dinguerie qu'a dit l'IA, là, c'est ça? J'ai pas la ref. Donc, depuis tout à l'heure, je vois les œufs de vache. C'est ça, elle a dit une bêtise? Qu'est-ce qu'elle a dit? Lucie a dit que les vaches pondent des œufs. Ah. Ok, ouais. Elle est très très bêta alors. Ok, d'accord. Et donc le monsieur, il s'est mis en colère parce qu'il dit on a besoin de soutenir les initiatives du genre comme celle de Mistral AI et ne pas le démolir. Hein? Ce qui me désole. D'ailleurs, on est sûr que les vaches font pas des œufs? On a vérifié ou pas? Ouais. Vérifions les informations. Ce qui me désole, c'est notre tendance naturelle à critiquer en France, à mettre déjà des barrières, comme avec l'AI Act européen, alors qu'il est au contraire grand temps d'encourager ces initiatives. L'adresse Lucie Chat ne répond plus, donc le truc a été débranché, mais les équipes de l'Inagora pensent pouvoir relancer le robot d'ici à la fin du premier trimestre. On ressort de cet épisode avec des soutiens et des centaines de demandes d'inscription de la part de personnes prêtes à jouer le jeu, dit la direction. On ne fera rien avant la tenue du sommet. À nous de continuer d'expliquer ce qu'est Lucie et de lui fournir les garde-fous nécessaires. Vous en pensez quoi? Ouais, au bas, j'ai vu. Le souci, Sam, c'est que les appels d'offres sont faits selon les contacts. On donne des responsabilités énormes à des incompétents et technologiques, juste des gens avec un réseau bien développé. Merci, Earl Cliff, pour ton message, c'est hyper intéressant. Le dernier train pour l'IA est raté, estime Moulbit, pas sûr qu'on en prenne un autre. Oh, attendez, soyez pas défaitiste. Je vous lis, je vous lis, je vous lis. Je peux vous dire que ChatGPT fort sort aussi avec des dingueries en analyse grammaticale, me dit Manon, c'est juste moins rigolo que les œufs de vache. Ils auraient dû faire une bêta fermée avec des utilisateurs fiables avant le lancement. En jeton, je crois que tu as raison. Je crois que tu as raison. Ticlem, en fait, Lucie, c'est un projet de recherche. Du coup, ça paraît logique qu'il ne soit pas encore au point, mais dans ce cas-là, ils l'ont sorti bien trop tôt. Ouais, c'est pas une histoire plutôt de maladresse, plutôt que d'escroquerie. Hein ? J'ai l'impression que c'est une sorte de mauvais timing, surtout, quoi. Oh, je suis bien dans ma chaise, là. Bon, voilà pour l'IA ce matin. On en reparlera, bien sûr, les amis. Après, Lucie, on va aller sur... La submersion migratoire. C'est Bayrou qui a dit ça. Voy. Qu'est-ce qui se passe? Déjà, on va essayer de voir ce qu'il a vraiment dit, de quoi il parlait. Et puis, voilà. Alors, attends, c'est quelle page, ça? Bayrou, Libération, page 10. Submersion migratoire, François Bayrou, à la dérive. Alors, Libé, ils y vont carrément. En adoptant une rhétorique d'extrême droite sur l'immigration, le Premier ministre a indigné toute la gauche. Embarrassé, le camp macroniste a cru le risque de voir adopter une motion de censure contre son gouvernement. François Bayrou, écrivent Jean-Baptiste Daoulas et Laure Ekid dans Libération ce matin, a un curieux sens du timing. Tournant le dos au Rassemblement national pour négocier la survie de son gouvernement avec le PS, le Premier ministre est parvenu à braquer l'ensemble de la gauche. C'est vrai que c'est pas super malin, en vrai. Sous les applaudissements nourris de l'extrême droite, parce qu'il a été applaudi à l'Assemblée par les députés du RN. Interpellé par Boris Vallaud et Cyril Châtelain, président des groupes socialistes et écologistes à l'Assemblée, Bayrou a maintenu ses propos lundi soir sur LCI. Sur le sentiment d'une submersion, donc ce sont ces mots, le sentiment d'une submersion, voilà ces mots que ressentiraient les Français en matière d'immigration. À gauche, on n'est pas du tout d'accord. Submersion, c'est un mot de l'extrême droite, partout en Europe et dans le monde, a tenté de le raisonner Boris Vallaud. C'est un mot qui blesse autant qu'il ment. Vous rendez-vous compte de l'insulte que vous faites à ces millions de Français qui ont dans leur chair cette histoire de l'immigration, vous leur crachez à la figure, a renchéri Cyril Châtelain. En vain, dans une suite de réponses confuses, Bayrou s'est défendu en affirmant n'avoir parlé de submersion qu'à propos de la situation à Mayotte. Donc on comprend que dans un deuxième temps, il a dit qu'il parlait de Mayotte. Mais dans un deuxième temps seulement, parce que certains dans le chat me disent depuis tout à l'heure « Ah oui, mais il parlait de Mayotte ». Donc dans un premier temps, c'était pas clair. Et dans un deuxième temps, il a dit « Oui, mais je parle que de Mayotte ». Déjà. Donc c'est dans un deuxième temps. C'est intéressant. Tout en ajoutant que ce n'est pas le seul endroit de France. Et à une couche. Son interview sur LCI n'était donc pas un dérapage incontrôlé. Le centriste tente de nuancer son propos en blâmant non pas les migrants, mais des décennies de politique publique. C'est parce que cette situation est ingérée que les Français la croient ingérable. Empathique, il évoque la guerre, la misère, le réchauffement climatique à l'origine des migrations. Peine perdue, les députés socialistes décident de suspendre leur participation à une réunion de négociation sur le budget avec le gouvernement. Donc les socialistes sont en colère, les écologistes sont en colère. Alors la question que pose Libération, c'est du coup, est-ce que ça a éventuellement poussé les socialistes à voter une motion de censure contre le gouvernement, quoi, qui donc n'aurait pas duré très longtemps. Un dilemme qui devrait embarrasser le PS ces prochains jours. Parce que vous savez que pour essayer de ne pas être censuré, Bayrou avait tenté de se rapprocher de la gauche, quoi, en tout cas des socialistes. Je vous lis pas tout, je vous lis l'essentiel. Évidemment, certains sont satisfaits des propos. Hein. Le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, s'est montré sur Europe 1 ravi que François Bayrou, un homme centriste, modéré, équilibré, puisse dire qu'il y a une proportion d'étrangers qui ne doit pas être dépassée sur le sol national. C'est Gérald Darmanin qui le dit. Ministre de l'Intérieur, idem. Hein. Bruno Retailleau s'est félicité sur France 2 d'entendre Bayrou justifier par ses mots la politique que lui souhaite mener. Voilà. Ok, on va aller plus loin, hein. Bien sûr. On va aller trouver un autre article là-dessus, et puis j'en parle avec vous dans les Échos. C'est la une des Échos. Hop, ce qui est assez intéressant. Hop, regardez. Bayrou le pèse au bord de la rupture. En évoquant un sentiment de submersion migratoire, le Premier ministre a provoqué une crise politique. Les discussions entre le gouvernement et les socialistes sur le budget ont été suspendues. Le PS est accusé par le Bloc central de vouloir faire monter les enchères pour renoncer à la censure. Hop, allons voir l'article, pages 2 et 3, et voyons ce qu'il y a de nouveau, de supplémentaire par rapport à l'article du Parisien. À quoi joue François Bayrou ? On se demande les échos quand même. En évoquant un sentiment de submersion à propos de l'immigration lundi soir sur LCI, le Premier ministre a réussi à braquer la gauche socialiste en tête, alors qu'ils sont en pleine négo sur le budget. Mardi, il a même maintenu ses propos à l'Assemblée, évoquant notamment la situation à Mayotte pour les justifier, et se plaçant entre ceux qui exagèrent, le RN pour lui, et ceux qui la nient, hein, ce sentiment de submersion, la gauche, il se met entre les deux. Et il dit, si vous gouvernez avec les préjugés... Non, qui dit ça ? C'est Boris Vallaud. Si vous gouvernez avec les préjugés de l'extrême droite, nous finirons gouvernés par l'extrême droite et vous en aurez été le complice. Voilà ce que dit la gauche. J'ai un édito là-dessus. Quelqu'un qui donne son avis dans les échos, je crois. Regardez. Édito de Cécile Cornudet. Un Premier ministre peut-il dire cela ? On va lire et après on en parle ensemble. Il n'y a rien de pire que de laisser aux extrêmes la prise en compte du ressenti des Français, a toujours pensé François Bayrou. En parlant de sentiment de submersion migratoire, cela se transforme en violente polémique contre lui. Un mot et voilà tout un château de cartes politiques patiemment construit par Bayrou qui menace de s'effondrer. Un mot plutôt deux, il peut y avoir chez certains Français un sentiment de submersion migratoire, a dit lundi soir le Premier ministre sur LCI. Mais quand les braises sont chaudes, il suffit de n'en retenir qu'un pour attiser les flammes. Submersion, le PS s'étouffe, c'est le mot de l'extrême droite, dit-il, avant de suspendre les négociations sur le budget. Un seul mot, donc submersion, qui soulève moult questions. Comment peut-il se retrouver dans la bouche d'un Premier ministre rompu à l'art du terme juste. Pour le coup, Bayrou, il n'est pas tombé de la dernière pluie. Et c'est quelqu'un qui maîtrise son verbe, hein, et son écriture. Comment peut-on le soupçonner de faire le jeu du RN quand, dans la même émission, donc sur LCI, il s'attache à l'équilibre, défendant l'immigration de travail sur certains métiers ? Comment oublier, demande encore la journaliste, qu'il a refusé à Bruno Retailleau une grande loi immigration, justement pour éviter le retour de la plus délicate des querelles françaises ? Comment a-t-il pu ne pas voir, lui, qui est plutôt habile politiquement, qu'il allait braquer le PS sur le sujet. Écartons d'emblée la lecture pro-RN. François Bayrou parle à tous. Il sait qu'une non-censure socialiste n'est pas gagnée et qu'il doit aussi viser celle du RN. Le fond de la pensée de la journaliste, c'est ça. C'est ça. François Bayrou est dans... J'en monte un petit peu plus tôt pour bien comprendre la phrase. De là à penser que Bayrou utilise l'immigration pour faire des clins d'œil à l'extrême droite, c'est aller plus loin que tout ce qu'il a toujours fait et toujours dit. Donc la journaliste nous dit que c'est pas vraiment Bayrou ça. François Bayrou est dans autre chose, dans une forme de parler vrai qui se retourne aujourd'hui contre lui. Et dans une préoccupation très ancienne de ne jamais nier le ressenti des Français. Rien de pire, pense-t-il, que ces technos qui, sur la sécurité, le pouvoir d'achat, la santé, contrecarrent par des chiffres ce qu'exprime le pays profond. Question d'empathie, question de cœur, même contrairement à ce que la polémique pourrait laisser penser. Si le centre ne prend pas en compte le ressenti de la population, alors il le laisse aux extrêmes et fait leur jeu. Voilà. Ce serait l'analyse de Bayrou. Mais que valent les explications et les intentions quand la situation est à ce point fragile ? Un seul mot peut faire tomber un gouvernement, prétexte idéal pour opposants qui en cherchent. Qu'est-ce que veut dire Cécile Cornudet ? Elle dit « Bayrou n'est pas vraiment un soutien de l'extrême droite, ne l'a jamais été, elle dit qu'il n'est pas en train de le devenir. Voilà. Il a un discours, vous pouvez en penser ce que vous voulez, qui est en mode « si les Français... » Si certains Français ont un sentiment de submersion migratoire, dans ce cas-là, il faut prendre en compte ce sentiment, sous-entendu même si ça n'est pas vrai. Bon. Et ce que dit aussi Cécile Cornudet, le journaliste, c'est que c'est le pire moment pour le faire. Il est en train de discuter avec la gauche pour un budget et ne pas être censuré. Et vraiment, il dit tout ce qu'il ne fallait pas dire. Quoi. Voilà. Donc, pas très habile. Voilà. Je vous lis maintenant. Putain, je vous mets la une des Échos. Tout le monde est là choqué, mais évidemment qu'il doit faire de la gauche et de l'extrême droite en même temps pour éviter la motion de censure, me dit Flotte. C'est pas complètement faux. C'est-à-dire qu'en fait, la donne politique à l'Assemblée est tellement compliquée que vous arrivez à du n'importe quoi. C'est pour ça que, savez, quand certains disent que l'une des solutions à la crise politique que nous vivons, c'est la proportionnelle, hein, c'est un discours qu'on entend très très fort. Proportionnelle qui, non seulement ne résoudrait pas ce paysage politique éclaté, mais viendrait l'éclater encore plus. Moi, je pense que ce ne serait pas la solution. C'est-à-dire qu'un gouvernement qui n'a pas de majorité, c'est un bordel impossible. Surtout dans un pays comme la France qui n'a pas l'habitude de la coalition, quoi. Et résultat, on a un Premier ministre là qui, manifestement, se fait des clins d'œil à tout le monde pour ne pas sauter, pour durer. Et c'est une des raisons pour lesquelles la situation politique est extrêmement compliquée, quoi. Alors, la proportionnelle, comme le dit Float, c'est probablement le système de scrutin le plus démocratique. Oui, c'est vrai. Mais c'est aussi le plus bordélique. Et c'est vrai aussi. Alors après, on peut espérer, tu as raison de le dire, Trigre, que la proportionnelle pourrait supposer un début de changement d'esprit vers la coalition. Ouais. Pourquoi ? Pour faire très simple, c'est pas si compliqué. Pourquoi la France est ingouvernable aujourd'hui ? Je vais vous l'expliquer super simplement. La France est ingouvernable parce que notre système politique a été habitué à fonctionner avec une alternance entre deux grands camps, gauche et droite, avec des exécutifs qui avaient des majorités absolue ou relative forte à l'Assemblée, et qui pouvaient à peu près appliquer leur programme de gouvernement, leur réforme, puisqu'avec une majorité de députés derrière. Avec un scrutin d'élection, scrutin majoritaire à deux tours, qui justement était fait pour favoriser l'émergence de majorités, voilà, en donnant une prime aux partis qui arrivaient en tête. Voilà. Ce qui est une déformation démocratique, puisqu'en fait ce n'est pas à l'Assemblée une représentation exacte du vote des électeurs, mais une représentation avec un résultat amplifié pour les partis qui arrivent en tête, hein, scrutin majoritaire. Merci Drakeos pour ce super raid. Donc ça dit bien ce que ça veut dire. Donc c'est un scrutin qui est moins démocratique, carrément, moins fidèle à ce que veulent vraiment les Français, mais qui permet l'émergence de majorités pour qu'il y ait une forme de stabilité politique et qu'en gros, un exécutif puisse mener ses réformes. Le problème, c'est quand, sous la 5e, assez récemment, pour X raisons, on n'est plus deux grands camps, mais trois grands camps, voire quatre, l'extrême droite, la droite, l'ancienne droite républicaine qui est très affaiblie, le camp macroniste, le centre, vous l'appelez comme vous voulez, et la gauche, avec une gauche qui est divisée par ailleurs, ce qui n'est pas très nouveau. Voilà. Et là, vous n'avez plus de majorité à l'Assemblée, depuis un petit moment déjà. Alors, deux solutions. Ou on joue le jeu à fond, on se met en proportionnel intégral, let's go, et on apprend aux partis à faire des coalitions de gouvernement, comme c'est le cas dans plein de pays dans le monde, voilà. Mais ce n'est pas la tradition française, et aujourd'hui, nos partis ne savent pas le faire. D'une part, et en plus ça pose la question de la stabilité de la coalition. Vous avez une coalition en Allemagne qui vient d'exploser, hein. La politique israélienne, la politique italienne, dans tous ces pays parlementaires, on voit justement que la proportionnelle et les régimes parlementaires sont souvent très instables, et des changements de gouvernement sans arrêt, donc ça pose des vrais problèmes de stabilité, voilà. Ou alors il y a une nouvelle donne politique, et à un moment les Français redonnent une majorité de députés à un camp, la gauche, la droite, extrême droite, que sais-je, je ne sais pas. Voilà. C'est ça la sortie de la crise. Ou les partis politiques s'adaptent à la nouvelle donne en supposant que cette nouvelle donne politique, l'éclatement du paysage politique, perdure. Ou ce sont les Français qui changent leur vote. Mais ça, c'est... On est totalement dans la fiction. Quoi. L'explication de la situation n'est pas très compliquée. Comment on en sort de cette crise? Ça, ça je n'ai pas de boule de cristal, quoi. Voilà. Voilà, donc tout ça pour vous dire que finalement, ce n'est pas très très compliqué à comprendre, mais ça nous dit pas comment on sort du truc, quoi. Ça nous dit pas comment on sort du truc. Non, je dis pas que les Français doivent changer. Non, mais non, mais non, 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 il y a deux box live. Pourquoi les Français doivent changer et pas ceux qui les représentent? Non, pas du tout. Bah, les Français ont voté pour un fait majoritaire très longtemps. Depuis quelques années, leur vote est plus éclaté. Demain, il peut redevenir majoritaire. Je ne dis pas qu'il doit l'être. Ils font ce qu'ils veulent, les Français. C'est pas mon problème. Je dis juste que comme ils ont voté majoritairement pour un parti ou l'autre avant, ils peuvent recommencer à le faire. Parce qu'en fait, ça dépend de l'offre politique. Ça dépend de l'offre politique. À un moment, les Français peuvent avoir envie de se diviser sur différents partis, ou au contraire de se rassembler sur un ou deux grands partis. Mais ça, c'est pas une obligation que je propose. C'est ce qu'ils feront demain. Ils l'ont fait dans le passé, ils le referont peut-être demain. Mais s'ils ne le font pas, eh ben ce sera effectivement aux politiques de s'adapter, quoi. Voilà. Bon, on va pas y passer 10 heures, c'est assez clair. Qu'est-ce que me dit mon amoureuse? C'est bien la politique, mais l'amour, c'est plus important. Alors, bon, bah, c'est assez clair. Est-ce qu'on a encore un article sur Bayrou? Là, on était dans les échos. On était dans les échos. Et 6, 7, ça nous emmène. Ah, on va parler de sexualité. Éducation sexuelle à l'école. Alors là, c'est pareil. Attendez qu'on ait lu l'article pour émettre des avis définitifs dans le chat en mode ouais, c'est un scandale, oui, c'est pas ça qu'il fallait faire, ouais. Donc là, attendez au moins de lire l'article. Que les avis définitifs de gens qui ont pas réfléchi, qui n'ont pas lu, qui savent même pas ce qu'il y a dans le projet de loi, hein, on n'est pas sur Twitter, on n'est pas sur X, réfléchissez. Voilà. Donc on va aller voir ça. Parce que tout à l'heure, dans le sommaire, j'avais dit deux mots sur le truc, personne ne savait ce qu'il y avait dans l'article, il y avait déjà des mecs qui étaient indignés. Indignés de quoi? Je sais pas, mon ref, mais je suis indigné. Oui, mais t'es indigné de quoi exactement? Il y a quoi dans le projet de loi? Je sais pas, mais je suis indigné. Non, mais il y a quoi dans le texte sur lequel qui t'indigne? Mais je sais pas, mais je suis indigné, c'est vraiment pas. Allons lire l'humanité sur ce sujet. Hop, l'humain qui fait un bel article, qui a l'air assez complet, on va voir. Qui va nous aider à comprendre. Peut-être qu'on va s'indigner! Mais après avoir lu l'article. Alors, c'est quelle page? 10. Hop, l'humain. L'humanité du jour. Voilà. L'humain qui consacre sa une au. Ben, je vous montre même pas, putain. Qui consacre sa une aux inondations en Bretagne, d'ailleurs. C'est le seul journal ce matin qui consacre sa une aux inondations. Oh, bah attendez, il y a un stream sur. Ah bah non, je vais pas leur faire de la pub, j'ai une émission moi ce soir. Il y a un stream sur Twitch, Humanité ce soir à 19h. Bon bah bravo, c'est très bien, parce que Luma s'est lancé sur Twitch aussi il y a quelques temps déjà. Mais j'en parle pas, moi je suis en stream à 18h. Là, vous avez rien vu, vous avez rien vu, vous avez rien vu. Vous avez rien vu, vous avez rien vu. Moi je les aime bien, c'est très bien, mais bon, mince. Allez voir le replay de Luma. Non, ce soir il y a MVP. Attendez, ce soir, attendez, ce soir, c'est dinguerie, ce soir. Regardez ce qu'il y a ce soir. Hop. Ce soir, MVP avec Anna Honner, avec Ludovic B, avec Étienne Moustache. Hein. MVP, le magazine, l'émission qui explore les voies professionnelles pour que chacun puisse trouver la sienne. On va notamment parler des métiers de l'automobile. On va parler de compétition auto, etc. Et tout. On va se régaler. Et c'est pas tout, parce que mon invité MVP, mon invité un peu spécial, c'est quand même. Il est où c'est où les tweets du vieux là? Hop! Manu Payet, s'il vous plaît. Voilà. Hein, qui va nous parler de sa carrière, etc. Donc ça va être c'est un beau stream. Hein. Villebrequin pas disponible? Bah, j'avais invité Sylvain et Pierre et puis ils m'ont pas répondu. Donc, je sais pas pourquoi. À mon avis, ils sont en train de bosser sur. Je pense qu'ils sont en train de bosser sur des projets les deux. Ouais. Parce que pourtant je les connais bien, mais ils m'ont pas répondu. À mon avis, ils sont en train de préparer des vidéos. Et à mon avis, je les connais, ils sont comme ça, les deux, là, comme cul et chemise, là. mon avis, ils sont un peu planqués quelque part en train de nous préparer des petites vidéos, là, je pense. Ouais. Donc, non. Du coup, ils sont pas là ce soir. Ouais, peut-être qu'ils sont en train de rajouter un aileron sur le multiple, je sais pas. Ouais. Donc, lisons ce truc sur l'éducation sexuelle. Voilà. L'éducation à la sexualité. Cul et chemise, voici une expression, ouais. Comment ça, plutôt cul que chemise? Je sais pas. Non, non, c'est une expression, en fait. L'éducation à la sexualité fera son entrée en classe en septembre. Le nouveau programme scolaire relatif à la vie affective, relationnelle et sexuelle devra être adopté, a priori, à l'Assemblée ce mercredi pour entrer en vigueur à la rentrée prochaine. De la maternelle au lycée. Et là, quoi? Quoi? Les mecs qui veulent pas y article, tu sais qu'on va la foutre. Les professionnels de l'éducation. Quoi? À la maternelle? Quoi? Allez-y. Non sans concession ni inquiétude après des semaines de polémique. Quoi? Après des mois de navigation à vue et des semaines de tempête, le nouveau programme d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle est en passe d'arriver à bon port. Ce texte qui a été la cible depuis septembre de polémiques venues des extrêmes et de la droite va enfin être présenté devant le Conseil supérieur de l'éducation. Après annulation et report, dû pour certains à la valse des ministres de l'éducation, l'instance représentative mais consultative va donc se prononcer sur son... Ah, c'est pas à l'Assemblée ! Ça arrive pas à l'Assemblée, ça arrive ? Dans les adoptés, c'est à l'Assemblée. C'est quoi le Conseil supérieur de l'éducation ? Bon, bref, le texte est prêt. Pas très clair. Quand tu dis « devrait être adopté ce mercredi », c'est un vote à l'Assemblée. Mais quand tu dis juste après que le texte arrive devant le Conseil supérieur de l'éducation, qui est juste une instance consultative, c'est pas très clair. Bon, on va voir. Le point de départ est double. La loi, c'est-à-dire le code de l'éducation, indique depuis 2001, donc c'est ce qui existe aujourd'hui. Tout à l'heure, il y avait des profs qui étaient avec moi. Là, il y a beaucoup d'enseignants dans ce stream, et c'est très cool, qui sont profs en maternelle, qui me disaient « Ah, mais on fait déjà des trucs ». La loi, c'est-à-dire la code de l'éducation aujourd'hui, indique depuis 2001 que tous les élèves de France doivent recevoir chaque année, pendant toute leur scolarité, 3 heures d'éducation à la sexualité. Ça, c'est la loi, qui existe déjà. Merci. Oh là là, le beau raid de ici, Japon Corp, vous êtes incroyable. Merci les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment. On parle de l'éducation à la sexualité, la nouvelle éducation à la sexualité qui va faire son entrée en classe en septembre prochain. Donc on rappelle la loi depuis 2001. 2001, tous les élèves de France doivent recevoir chaque année. Merci Thève. C'était Thève qui était en live ? Pendant toute leur scolarité, 3 heures d'éducation à la sexualité. Prescription qui est faute de moyens humains et faute d'un programme indiquant noir sur blanc les contenus d'un tel enseignement ne serait respecté aujourd'hui que pour environ 15% des élèves. Il y a une loi depuis 2001 qui n'est absolument pas respectée, déjà, hein, qui n'est pas appliquée, faute de moyens, et il y a à peine 15% des élèves qui sont touchés. D'où la grande opération de concertation en vue de la révision de ce programme, lancée en juin 2023 par le ministre de l'Éducation de l'époque, qui était Pape Ndiaye. Il y a eu des versions provisoires, dévoilées au fil du cheminement, qui ont vu que les ambitions étaient revues à la hausse, déclinées en fonction de la maturité des élèves, de la maternelle jusqu'au lycée, évidemment, ce n'est pas les mêmes cours, autour de 3 principes, se connaître et connaître son corps, aller vers les autres, construire une relation avec eux, liberté, responsabilité, dimension sociétale de la sexualité. Hein. Dès les premiers éléments connus de cette réflexion, on assistait à une mobilisation de certains groupes réactionnaires, issus de la droite et de ses extrêmes, refusant au nom de la maîtrise par les familles de cette dimension de l'éducation, les gens qui disaient « c'est pas à l'école de parler de ça, c'est dans les familles », de voir aborder certains sujets. Donc certains disaient « non, il ne faut pas parler d'homosexualité, non, il ne faut pas parler de transsexualité, non, il ne faut pas parler d'identité de genre, des nouvelles structures de la famille, etc. » Alors que la version définitive du programme devait être dévoilée cet automne, ce bruit, cette polémique redoublait, accompagnée du lancement de rumeurs parfaitement délirantes sur le visionnage d'images pornographiques. Hein. On va montrer des images porno à nos enfants ou l'apprentissage de la masturbation aux enfants de maternelle. Voilà. Il y a des gens qui ont dit ça. Ah oui, c'est incroyable. Les bras m'en tombent. Heureusement, dans ma nouvelle chaise, j'ai des petits accoudoirs. Sophie Audugé, présidente de l'association SOS Éducation, allait jusqu'à qualifier l'éducation sexuelle à l'école de dérive totalitaire. Allez, let's go! Dans une interview au Figaro, pire, cette campagne trouvait des relais au gouvernement, mais même rue de Grenelle,
l'éphémère ministre de la réussite scolaire et de l'enseignement professionnel du gouvernement Barnier, Alexandre Portier, jugeant que le nouveau programme n'était pas acceptable en l'état. Polémique, débat, etc., etc. Le texte définitif, et c'est ça qui m'intéresse, moi. Parce que parler pendant des mois, polémiquer pendant des mois d'un texte dont on ne connaît pas le contenu, franchement, on a autre chose à foutre. Par exemple, jouer aux jeux vidéo. Donc le texte définitif, pris en charge par la nouvelle ministre Elisabeth Borne, et qui, sauf imprévu, va rentrer en vigueur à la rentrée prochaine, semble préserver l'essentiel. En maternelle, les notions abordées sont la découverte du corps, hein, des sentiments, l'égalité fille-garçon, le respect de l'intimité, la possibilité de faire appel à des adultes de confiance en cas de danger. Ça a l'air OK. Ça a l'air faire. Je répète, maternelle, découverte du corps, des sentiments, l'égalité fille-garçon, le respect de l'intimité, hein, et la possibilité de faire appel à des adultes de confiance en cas de danger. Ça a l'air OK. Ça a l'air OK. Ces notions seront approfondies en primaire, le cycle 3 à partir du CM1 abordant, donc à partir du CM1, donc on abordera les questions liées à la puberté, puisque ça commence à partir de cet âge-là, aux violences sexistes et sexuelles, au harcèlement et aux dangers d'Internet. C'est faire, ça, non ? C'est OK. Donc à partir du CM1, on aborde les questions liées à la puberté, aux violences sexistes et sexuelles, au harcèlement et aux dangers d'Internet. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a de choquant dans tout ça ? Au collège, la sexualité proprement dite et la reproduction seront abordées. Au lycée, les dimensions sociétales et critiques seront envisagées, ainsi que les conduites à risque et comment s'en prémunir. Alors, fin de l'agitation réactionnaire, s'interroge l'humanité. Guylaine David, porte-parole de la FSU-SNUIP, qui est le premier syndicat du primaire, redoute que non. Elle pointe des reculs au niveau du primaire sur le domaine des structures familiales qui ne sont plus nommées. Ouais, elle trouve que la réforme ne va pas assez loin, quoi. Le plus inquiétant pour la syndicaliste qu'on vient d'évoquer, c'est l'obligation dans la loi de communiquer aux familles les horaires et les dates des séances. C'est intéressant. Elle dit on ne prévient pas quand on fait une séance d'éducation musicale. En faisant cela, on risque de déboucher sur des familles qui retirent leurs enfants de l'école à ces moments-là. C'est dans l'humanité. Comme on l'a vu en 2014 au moment de l'ABCD de l'égalité. Ça, c'est intéressant. Voilà. Voilà ce qu'il y a dans le texte. Voilà, je vous lis maintenant. Gamay, allez dire aux enfants cathos et musulmans que l'hétérosexualité n'est pas plus normale que l'homosexualité, on y croit, on peut toujours rêver. Bah, je trouve ça plutôt cool qu'ils entendent autre chose que ce que leur famille leur dit. Un enfant n'est pas que ce que les parents essayent d'en faire. Hein ? Il a le droit de recevoir d'autres messages. Frisquetosaur a totalement raison. Rappelons aussi que l'inceste, hein, c'est 2 enfants par classe en moyenne, d'après la Civise. D'autant plus important d'aborder ces questions hors du cadre familial et dès le plus jeune âge. Pardon hein, de dire des choses qui fâchent, mais rappelons que la fameuse famille adulée, portée au nu par certains comme étant l'endroit parfait, idéal, où doivent se transmettre les valeurs, la famille est aussi, hélas, le cadre privilégié des violences sur les enfants, et notamment sexuelles. Hein. Et que les viols des enfants, c'est d'abord au sein de la famille. Donc si à un moment, dans le cadre de l'école par exemple, une parole peut être portée pour mettre en garde les enfants sur le sujet et leur dire qu'ils peuvent s'ouvrir à d'autres adultes que leurs parents s'il y a des soucis, pardon, mais ça me semble plutôt pas mal. Salut LXSCXR, comment je prononce ? Merci à toi. Peut-être trouver un autre mot que éducation sexuelle pour moins crisper et péchou. Non, c'est aux gens de faire un effort et d'être intelligent et de lire les trucs, quoi. À un moment, on va appeler un chat, hein. C'est pas la vie amoureuse des courgettes ou des lombrics, c'est l'éducation sexuelle et la sexualité, voilà. Donc c'est pas un gros mot, le sexe, hein. Sans sexe, on n'est pas là, les gars. Hein. Donc c'est pas sale, c'est pas ça dépend comment vous le faites. voilà. Donc non, c'est aux gens tout simplement de se pencher sur le contenu des textes et plutôt que partir en sucette et en débat sur les textes qu'ils n'ont pas lus, quoi. Après, de la même manière que les parents ne sont pas forcément les meilleurs formateurs sur ces questions, bah ça va dépendre des profs aussi. Hein, parce que certains, ça, déjà, est-ce que cette loi va être respectée? On a vu que l'ancienne loi de 2001 n'était absolument pas respectée et concernait à peine 15% des élèves. Est-ce que celle-ci va être appliquée? Est-ce qu'il y aura des moyens pour le faire? Enfin, première question. Certains en parlent et vous avez raison. Deux, est-ce que ça va être fait de bien fait? Hein, il y a de bons profs d'histoire, puis il y a de mauvais profs d'histoire. Il y a des profs d'anglais qui sont nuls et de très bons profs d'anglais. Ben, sur ce sujet, il y aura des bons puis des mauvais. Voilà. Comme au sein de la famille, il y a des familles qui arrivent à en parler avec intelligence et d'autres pas. Bon, ben voilà, c'est pas la loi qui va résoudre le problème. Mais c'est le cap fixé me semble assez pertinent. La maternelle, c'est beaucoup trop tôt selon moi. Non, non, Terte. On a vu que ce qui était prévu pour la maternelle, c'était l'explication du corps. Et je reviens sur un mot très important, je vais simplifier pour que tout le monde comprenne bien. Maternelle. Ok. Se connaître et connaître son corps. Non, ça c'est pour tout le monde. Attends. Et tu vas comprendre pourquoi j'insiste. Il faut que je retrouve le passage par contre. En maternelle. Les notions abordées sont la découverte du corps, des sentiments, l'égalité fille-garçon, hein, et autant en parler dès le plus jeune âge, le respect de l'intimité. Ton zizi, c'est ton zizi. Voilà. Personne ne doit le toucher en dehors de toi, quoi. Ce genre de truc. Ouais, vous voyez. Ça va éviter plein de problèmes. Ça va éviter plein de. Ça va alerter l'enfant sur des éventuels comportements bizarres autour d'eux. Voilà. Hein. Voilà, ça, c'est à toi, ça. Personne ne doit. Et puis aussi, en termes de comportement, bah, tu dois pas aller toucher celui des autres, etc. Quoi. Donc, si ce genre de propos tout simple peut être gentiment dit dès très tôt, ça peut protéger des enfants et aussi peut-être prévenir des comportements problématiques, quoi. Donc non, ça me paraît pas trop tôt. Ça me paraît pas trop tôt. Et après, il faut le faire avec intelligence, bien sûr. Mais les enfants en maternelle ne se lavent pas tout seuls, souvent. Mais bien sûr, mais attendez, mais distinguons entre un parent, un père et une mère qui va donner le bain ou la douche à son enfant petit en maternelle et forcément le voir nu et... Et le savonner partout, donc c'est qu'il y a un geste d'hygiène, et le fait que dans un autre contexte qui n'est pas un moment de toilette, le même parent ou un proche ou qui sais-je touche les parties génitales de l'enfant. Voilà. Mais, hein? D'ailleurs, Manon me dit, quand un enfant a 3-4 ans, idéalement, on le savonne partout, sauf ses parties génitales, et on lui dit de le faire, lui, c'est trop âgé pour le faire, nous, parents. Il y a peut-être des logiciels à faire évoluer sur ce sujet. Quoi. Voilà. Bon, vous voyez, sujet important. Vous voyez, le texte, il n'est pas... hein, quand on a vu les polémiques de ces derniers mois sur le sujet, on voit, et je vois dans le chat, que ça rend pas fou les gens. Quoi. Hein. 3-4 ans, il suffit de montrer au gamin, me dit Boucherod, il saura faire. Ouais, c'est assez pertinent ce que vous dites. Après, quel moyen aura l'éducation nationale? Est-ce que les profs auront le temps de faire tout ça? Voilà. Est-ce qu'ils n'auront pas peur de la réaction des parents, certains parents un peu arriérés, voilà, et de se prendre des parents qui parfois sont des, hein, des vrais problèmes pour certains en réaction, vous voyez. Force aux enseignants d'ailleurs. Alors, de quoi je vous parle aussi ce matin? Je vois des commentaires hyper intéressants dans le chat. Ouais, bravo à vous. Là, on était avec l'humanité et on va aller sur maintenant. Ah, le réchauffement climatique, désolé. J'ai pas des super bonnes nouvelles. Ouais, c'est la une de la Croix, je crois. Merci la Croix, voilà, de nous rappeler que on n'oublie pas ça. Je vous mets peut-être d'ailleurs. Hop. Voilà. Eh oui. Désolé, bon vous le savez déjà, mais de temps en temps, une petite piqûre de rappel. Merci Brimt pour le Prime, merci Duc Duponet pour le quatrième mois. Merci LXS, c'est XR, j'avais pas vu. Merci pour le sub. Plus 1,5 degré. Et après, le réchauffement mondial a dépassé le seuil symbolique de 1,5 degré en 2024. Sans un sursaut des États, la possibilité de tenir les engagements de l'accord de Paris s'éloigne. Mademoiselle Dumaine, tu as raison. Réchauffement climatique, est-ce qu'on peut revenir en arrière? Qui aurait pu le prévoir? Très bonne question. L'année 2024 a été la plus chaude jamais enregistrée. Pour la première fois, le réchauffement climatique a dépassé le seuil symbolique de 1,5 degré Celsius. Or, les États s'étaient engagés dans l'accord de Paris, signé en 2015, de limiter celui-ci bien en deçà de 2 degrés et à poursuivre les efforts pour le maintenir en dessous de 1,5 degré d'ici la fin du siècle. La possibilité de ce deuxième scénario s'éloigne de plus en plus. Voilà. Bon, je pense que personne ne va apprendre quelque chose là-dessus, mais c'est important d'en parler régulièrement. Des climatologues s'inquiètent d'un excès de confiance dans la possibilité d'un retour en arrière. La nouvelle était attendue, annoncée, puis finalement confirmée début janvier par l'Organisation météorologique mondiale. L'année 2024 a donc été la plus chaude jamais enregistrée depuis, évidemment, qu'on relève les températures. Évidemment, avec des conséquences que l'on sait sur le climat, multiples canicules, inondations, sécheresses de l'an dernier, des températures records qui ont des conséquences bien concrètes. Mais elle marque aussi le dépassement d'un seuil symbolique gravé en 2015 dans l'accord de Paris. La quasi-totalité des pays du monde s'était engagée pour limiter le réchauffement à l'époque. Est-ce que cette année 2024 marque donc, c'est très clair, l'échec de l'accord de Paris? L'accord de Paris reste muet sur la façon dont doit être acté le dépassement de ses propres objectifs. Mais les climatologues sont unanimes. Une température de plus de 1,5 degré sur une année ne suffit pas à acter le dépassement de ce seuil. Donc, il faut que ce soit sur le long terme. Voilà. Rigueur scientifique. Excusez-moi pour le zoom. Je lis. Cela étant dit maintenant, une fois qu'on a dit cette précaution, la tendance de fond n'est pas une surprise. Les températures actuelles se situent dans la fourchette de ce que prévoyaient déjà les modèles il y a 40 ans, explique un chercheur du CNRS. Qui aurait pu le prévoir, hein? Ah, mais arrête de zoomer tout seul, toi, mon chouchou. Et la perspective d'un dépassement définitif se rapproche. 23 pays ont beau avoir enclenché une diminution de leurs émissions de CO2, liées au pétrole, au gaz, au charbon, celles-ci continuent de battre des records au niveau mondial, hein, plus 0,8% l'an dernier. Reviens, petit article. Pour faire simple, et nous résume la Croix, si les politiques des États continuent ainsi, nous allons vers quoi? Vers un réchauffement autour de 3 degrés à la fin du siècle, une perspective qui nous ferait entrer dans un tout nouveau monde, moins pire toutefois que ce qui ressortait des estimations réalisées avant 2015 où les politiques nous menaient à l'époque vers un réchauffement de 4 degrés à la fin du siècle. Preuve, félicitons-nous un tout petit peu de certains trucs, preuve que l'accord de Paris ne fut pas vain, arguent ses défenseurs. Donc on va vers une catastrophe, mais ça aurait pu être bien pire sans l'accord de Paris et sans les efforts. Il y a eu des efforts, il y a eu des engagements. Donc il n'y a pas eu rien. Voilà. Ça aurait pu être bien pire. Je ne dis pas que c'est formidable. Hein.
Pouvons-nous revenir en arrière ?
Question essentielle.
Pour chaque tonne de CO2 émise, seule la moitié est absorbée par ce qu'on appelle les puits de carbone naturels, les océans, les forêts. Le problème CO2 est donc lié à son accumulation. Une fois dans l'atmosphère, nos émissions y restent pour des milliers d'années. Afin de mettre un stop à cette hausse effrénée des températures, il faudrait en théorie que les émissions de CO2 passent donc de 40 milliards de tonnes chaque année à zéro. C'est là où c'est compliqué. L'accord de Paris, c'est celui que les États-Unis viennent de quitter ?
Oui,
exactement. Trump, à chaque fois qu'il est élu, c'est la deuxième fois, il quitte l'accord de Paris. Il l'a quitté une première fois, Biden est revenu dedans et il est ressorti. Eh oui. Dans la réalité, une telle perspective de tomber à zéro d'émissions paraît peu probable puisque certaines émissions de gaz à effet de serre, aviation, agriculture, sont impossibles à éliminer totalement. Je lis tout ça parce que c'est intéressant. Raison pour laquelle s'est dessiné l'objectif d'atteindre la neutralité carbone, une baisse des émissions drastiques, déjà, et le pompage des gaz à effet de serre restant actuellement dans l'atmosphère. C'est ce qui permettrait de stabiliser la température mondiale avant éventuellement de la faire redescendre. Ce pompage du CO2 devrait être réalisé par des puits de carbone additionnels à ceux qui existent déjà, donc plus de forêts, hein, ou des solutions techniques, par exemple de gigantesques usines qui fonctionneraient comme des aspirateurs à CO2. Faire redescendre la température nécessite d'aller encore plus loin, absorber plus de CO2 que nous en émettons, toujours en pompant du dioxyde de carbone. Compte tenu du retard pris, la plupart des scénarios qui nous permettent de rester sous la barre des 1,5 degrés Celsius à la fin du siècle envisagent d'ailleurs sur un dépassement temporaire de l'ordre de quelques dixièmes de degrés avant de faire redescendre le mercure global. Bon, ça, c'est la version la plus optimiste. Pardon, je lis. Je vais à la fin de l'article. Faut-il s'attendre à des conséquences irréversibles ? Écartons les difficultés évoquées. Admettons que les États enclenchent une baisse massive de leurs émissions de gaz à effet de serre. Donc imaginons que tout le monde se retrousse les manches. Mieux, elles parviennent même à éliminer peu à peu ce qui s'est accumulé dans l'atmosphère. Les concentrations de CO2 à l'origine du réchauffement climatique diminuent peu à peu et la température mondiale redescend. Dans ce cas-là, c'est gagné ? Pas tout à fait. Nous nous attendons à ce que la baisse de température entraîne une diminution de certains événements climatiques extrêmes, comme les canicules. Mais pour d'autres éléments, comme le cycle de l'eau, les conséquences sont moins claires. Elles pourraient être différentes selon les régions du monde. Conclusion de l'article, le changement climatique affecte les écosystèmes et les humains dès aujourd'hui. Le dépassement engendre de la souffrance et c'est cela qui devrait tous nous concerner. Bon, je pense que vous n'avez appris rien dans ce papier, mais voilà, c'était juste pour faire une petite photographie à l'instant T de la situation dans la lutte contre les changements climatiques. Je vous lis un petit peu. Aurel, en fait, je stream tous les jours. Un stream ou deux streams par jour. Après, il m'arrive, en raison de mes activités en télé, de pas être présent voilà, autant que je voudrais le matin, par exemple. Parce qu'en général, je stream tous les soirs, du jeu vidéo plutôt. Mais le matin, ça dépend. Quand je suis en télé, en enregistrement, du coup, ça, c'est pas possible. Ce qui est arrivé lundi et mardi, par exemple. Voilà. Mais voilà, là, aujourd'hui, demain et après-demain, on sera en revue de presse le matin. Jure, tu passes à la télé? Vaguement, je fais des petits trucs rapides, vite fait quoi. Ouais, Blonder. Fier de toi. Vite fait, vite fait. Content de la performance d'étoiles dans Question pour un champion? Emma, je ne commente pas le passage d'étoiles à Question pour un champion. Il faudra voir, pour l'exclamation étoile avec un S dans le chat, l'émission du 22 mars.
pour en savoir plus. Ah ah ! Qu'est-ce qu'il a fait ? Est-ce qu'il a passé le 9 points gagnant ? Est-ce qu'il a passé le 4 à la suite ? Est-ce qu'il a gagné ? Est-ce qu'il a enchaîné les émissions ? Est-ce qu'il a gagné plusieurs fois ? On ne sait pas. J'analyse ton visage. Vous ne pouvez rien lire sur mon visage. Est-ce qu'il a vomi ? On sait déjà tous. Non, vous savez pas. Moi, je sais. Et Rayou, il sait. Le suspense est atroce. Ça va être incroyable. C'est un samedi, 22 mars. Ouais. Pour l'exclamation étoile. Alors, après le réchauffement climatique, je vous parle de quoi ? Parce qu'après, il faut que je me prépare pour MVP, moi. Qu'est-ce que c'est ? Hop. On a parlé de DeepSeek, l'IA chinoise. On a parlé de Bayrou et de ses propos sur la submersion migratoire. On a parlé de la loi sur l'éducation sexuelle. On a parlé du réchauffement climatique. On va parler d'une école plus inclusive pour les enfants en situation de handicap. Voilà. De ce qui existe et de ce qu'il faudrait faire. Moi, je trouve que c'est un sujet essentiel. J'espère que dans quelques années, on pourra se féliciter des efforts qu'on a mis en place collectivement. Des équipes mobiles pour rendre l'école plus inclusive. De quoi s'agit-il ? C'est un article, page 4 dans La Croix, sur une initiative, un test, une expérience pilote, bon, qui est en cours, qui pour l'instant est dans un tout petit territoire. On va voir si c'est intéressant. L'accueil à l'école d'enfants souffrant de handicap a progressé ces dernières années. Oui, c'est vrai. Sans aide adaptée. La politique de l'école inclusive a atteint une masse critique, selon François Bayrou. Une expérience pilote menée notamment en Eure-et-Loire s'avère prometteuse. Bon. Il y a des efforts, il y a eu des réalisations. On est très loin de ce qu'il faudrait faire, mais il y a des choses, on va en parler, et on va dire aussi ce qui ne marche pas. L'expérience pilote, elle est là, en fait, regardez. Mais je peux pas zoomer. Près de Chartres, en Eure-et-Loire, à Mainvilliers, depuis septembre 2024, donc depuis la dernière rentrée, des équipes de professionnels, équipes agiles et réactives, sont déployées dans 4 départements pilotes pour aplanir les difficultés liées à l'inclusion d'élèves en difficulté, porteurs de handicap ou de troubles du comportement. Alors, comment ça marche ? Donc, c'est une équipe formée, par exemple, d'éducatrice, d'enseignement spécialisé, accompagnante d'élèves en situation de handicap, AESH. Et donc, c'est l'équipe qui se déplace, voilà, et qui est appelée par les écoles, d'après ce que je comprends. Ça peut être des problèmes comportementaux, des grosses crises de l'élève dans la cour, qui veut pas rentrer en classe. Pôle d'appui à la scolarité. Merci, Céyane. Ces équipes mobiles de 3 ou 4 professionnels, éducateurs et enseignants spécialisés, ergothérapeutes, sont une sorte de force d'action rapide de l'éducation nationale. Leur objectif, apporter promptement, en cas de problème, une réponse aux élèves, à leurs familles, aux enseignants. Voilà. De plus en plus, les enseignants expriment des difficultés à gérer des élèves qui ont des problèmes de comportement. Mais oui, accepter, et tant mieux, de plus en plus d'élèves en situation de handicap à l'école, c'est aussi confronter les enseignants à des situations qu'ils n'ont pas toujours anticipées. Quoi. Alors qu'ils doivent gérer une classe par ailleurs. Quoi. De plus en plus, les enseignants expriment des difficultés à gérer des élèves qui ont des problèmes de comportement. Lorsqu'un élève est diagnostiqué avec des troubles de l'attention, notre action vient accompagner l'enseignant pour qu'il comprenne le fonctionnement de l'élève et puisse adapter le programme. Bon, ouais, ils viennent accompagner l'enseignant déjà. Parfois, nous sommes sollicités pour les enfants qui n'ont pas été diagnostiqués, mais dont on voit bien qu'il y a des difficultés, hein, en matière de lecture, de compréhension, d'écriture. Pas mal, ça. C'est pas mal. Là encore, nous quoi ? Je n'arrive plus à zoomer, moi. Nous aidons les enseignants à mettre en place des programmes adaptés en simplifiant pour se mettre à la portée de l'élève. Donc il y a 4 départements qui bénéficient de ce dispositif novateur actuellement. Il y a 18 équipes. Voilà. Et chaque équipe intervient, vous l'avez compris, à la demande dans une dizaine d'établissements maternels, lycées. Ok. Les avantages, c'est des réponses rapides. En général, l'équipe intervient moins d'une semaine après la demande de l'enseignant ou de l'école. Une seule intervention permet parfois de régler le problème par un conseil ajusté. Dans d'autres cas, elle permet la détection d'un trouble qui pourra déboucher sur la reconnaissance d'un handicap. C'est intéressant. Autre vertu de ces équipes mobiles, leur parole extérieure à l'enseignant et à l'école permet parfois de sortir de situations bloquées entre les familles et l'établissement. Ça, c'est bien aussi. OK. Alors ça, c'est une initiative. Bon, ce n'est qu'une initiative. Reste à voir maintenant si, elle est positive, ce qui semble être le cas. Deux, si elle peut être généralisée. Maintenant, on va se pencher sur la situation aujourd'hui. Voilà. Parce qu'il y a une loi qui date de 2005 sur le handicap. Une loi de 2005, une loi qui a 20 ans et qui n'est toujours pas appliquée en totalité. Quoi. C'est intéressant, tu vois, il y a Jérôme qui dit « J'étais élève avec une maladie grave non diagnostiquée jusqu'à l'âge adulte, toujours mis de côté par les profs, les élèves, alors que j'avais d'excellents résultats et un comportement agréable, mais tout le temps malade. Au final, j'ai quand même dû passer par Centrale, donc la célèbre école d'ingénieurs. Mais ce genre d'école aurait pu m'aider pour ma maladie, qui était une maladie rhumatismale. » Je sais, Alexandra. Merci d'être avec nous. Nanjou dit « Courage à tous les profs du chat, vous faites le meilleur métier. Force aux enseignants qui ne sont pas assez respectés, pas assez considérés. » Oui. Bravo. Nils, ma femme est enseignante, avoir des élèves de ce genre en classe, élèves de ce genre, tu as écrit 6-7 lignes, tu peux écrire élèves en situation de handicap. Hein ? Prends le temps, hein ? Élèves de ce genre. Tu comprends ? Avoir des élèves de ce genre en classe perturbe tout le reste des élèves, ralentit l'apprentissage du groupe. Ouais, bah oui. Devoir gérer les crises de personnes en situation de handicap, autant pour moi, pardon, tu l'écris juste après, n'est pas le rôle d'un enseignant qui n'a pas été formé à cela. C'est extrêmement difficile comme situation. Ben, on va le former, en fait. Attendez, on ne va pas sortir les élèves en situation de handicap des classes parce que les profs n'ont pas été formés. Non, la solution, c'est de former les profs. Ah non. Attends, mais l'inclusion de la personne en situation de handicap à l'école, dans le monde du travail, c'est la solution, c'est la clé. Hein ? C'est une responsabilité collective. Dans ce même temps, on réduit les effectifs dans des centres spécialisés, aucune aide n'est proposée ailleurs. Oui, pour ça, tu as raison. Tu as raison. Mais la solution, je ne pense pas que c'est ce que tu proposes, mais la solution n'est pas de sortir les enfants en situation de handicap. La solution, c'est de donner les moyens à l'école et aux enseignants de les prendre en charge. Hein ? On est d'accord. Je pense que c'est ce que tu veux dire, bravo Nils d'ailleurs. Je pense. C'est un débat, dit Aizen Géalixi. C'est un débat, ouais. Je pense que tu serais parent d'un enfant en situation de handicap, ce ne serait pas un débat pour toi. Hein, voilà. Donc tu viens de nous dire par ton commentaire que tu n'étais pas concerné par le sujet. C'est une question de solidarité, en fait. Voilà. Il y a Mitchell Bidou qui, du coup, fait de l'humour noir. Il dit oui, on va les sortir, hein, les enfants en situation de handicap, c'est de l'humour. Hein. Et après, les élèves en difficulté, on va les sortir aussi, parce que aussi les élèves en difficulté, vous avez remarqué, ils baissent le niveau, hein, et puis ils empêchent les meilleurs de bien bosser. Donc, tu as raison. On va sortir les enfants en situation de handicap, on va sortir les élèves en difficulté, hein, qui ne le seront pas, donc, peut-être pas dans quelques années d'ailleurs, mais qui à un moment sont en difficulté. On va quand même les sortir, ouais, comme ça, on va pas être emmerdé. Après, on va sortir les élèves moyens, parce que les élèves moyens aussi, ça aussi, finalement, ils tirent vers le bas. On va garder les 5 meilleurs de chaque classe. Un prof, 5 élèves. Là, on va avoir des purs résultats. Et puis, de toute façon, les autres ne feront pas d'études supérieures. Mais Mitchell a la raison. Mais oui, mais bien sûr. Hein. Vous voyez la logique de ça ? Mais on est d'accord que pour l'éducation nationale et pour les enseignants, c'est un défi. TFH nous dit, ma compagne est prof et elle fait déjà 50 heures par semaine. Adapter les cours pour les élèves en situation de handicap est une tâche supplémentaire qui demande beaucoup de temps. Il faut ajouter des moyens humains. C'est la seule solution. On est complètement d'accord. Moi, je pense qu'un des critères pour mesurer le degré d'évolution d'une civilisation, c'est de voir la manière dont cette société intègre et traite correctement tous ses citoyens et notamment ceux en situation de handicap. Voilà. Il y a zéro débat là-dessus. Voilà. Bon, un petit point sur ce sujet important avec ce dossier de la Croix qui est plutôt bien fait. De quoi je vais vous parler encore ce matin? Donc la Croix on a fait. On a encore du cinéma à venir, mais c'est pas tout. J'ai autre chose. J'ai aussi. Bah, du foot. Oh, c'est vous qui allez m'expliquer là, j'y connais rien, moi. Bon, c'est la une de l'équipe. Voilà, c'est une soirée des champions de dingue là. C'est pour ça que je stream pas ce soir. Non, j'y comprends rien, faut m'expliquer. Mais vous m'expliquez déjà tout à l'heure. Alors, soirée Popcorn, très belle une de l'équipe. Vous avez quatre clubs français. Donc, PSG, qui va jouer à Stuttgart. Monaco, qui se déplace à l'Inter Milan. Lille, qui reçoit le Feyenoord Rotterdam. Et Brest, qui reçoit le Real Madrid. Mais à Guingamp, puisque vous me l'avez expliqué tout à l'heure, le stade de Brest n'est pas aux normes. Et donc, on a quatre clubs français en Ligue des Champions. Alors, tout à l'heure, comme je n'y connais rien, je me dis, mais c'est quand même fou, quatre clubs français en Ligue des Champions. Et vous m'avez expliqué, ben oui, Samuel, en fait, il y a eu une réforme de la Ligue des Champions. Et c'est aussi pour ça que, il y a plus de clubs. Qui va gagner son ticket pour la phase finale? Parce que là, ce n'est pas la phase finale de la Ligue des Champions. Le PSG a besoin d'un match nul pour valider sa place en play-off. Ils ont fait un beau match. Ils ont gagné 2-0 le dernier, c'est ça? Et accompagner Monaco, Lille et Brest dans la suite de la campagne européenne. Ouais. Bon, je vois qu'il y a des supporters de Brest et de Lille dans le chat. Très bien. Ah, c'était 4-2? Ah, c'était deux buts d'avance contre. C'est quoi? C'est City? Okay. Ah, c'était 4-2. Voilà. Et donc, bon, moi, ce qui m'intéresse notamment, c'est Brest, parce que je ne crois pas me souvenir que Brest ait jamais disputé la Ligue des Champions. Est-ce que je dis une bêtise? Ils ont peut-être participé à des Coupes d'Europe, mais sûrement pas à une Ligue des Champions. Enfin, je ne crois pas. Et on a un article dans le Figaro là-dessus, sur Brest en Ligue des Champions. C'est page 19. La folle épopée de Brest. Ils vont défoncer le Real? C'est trop mignon. Bah, j'espère. C'est la première fois, on est d'accord. Ligue des Champions, la folle épopée de Brest qui défie le Real Madrid, le club breton, déjà qualifié pour les barrages de la Ligue des Champions et en mesure d'accéder directement en huitième de finale. Mais c'est une dinguerie. Ils peuvent accéder en huitième de finale? En cas d'exploit face à Madrid, ne cesse de repousser ses limites. Mais c'est fou, mais c'est fou. Incroyable. Ce serait fou. Moi, je vais suivre ça ce soir. Comment ça, Mbappé va climatiser la Bretagne, Sugar Frog? On n'a pas besoin d'être climatisé en Bretagne, hein, t'inquiète. On a ce qu'il faut. Hein. Une belle histoire comme le football en propose encore dans un monde où les fonds d'investissement internationaux, les groupes industriels ou certains États bataillent pour être en haut de l'affiche. Écrit le Figaro, c'est la beauté de ce sport. Hein, qui fait que parfois on peut avoir de petites équipes qui font des épopées exceptionnelles et déjouent tous les pronostics, dit le directeur sportif du club de Brest. C'est mignon. Il faut savourer et profiter, mais je n'oublie pas que lors du tirage, on se disait, mais qu'est-ce qu'on fout là? C'est trop mignon. En voyant tous les grands de ce monde. Aujourd'hui, on défie le Real, ce qui est fou, avec un vrai enjeu et la volonté d'être à la hauteur, c'est complètement fou. C'est incroyable. Deux mondes aux antipodes, David contre Goliath. Sans oublier la pléiade de stars qui vont débarquer à Guingamp, Kylian Mbappé en tête, Jude Bellingham et le Ballon d'Or 2018. Luka Modric. On me dit que Vinicius est suspendu et qu'il ne sera pas du voyage. Et il y a aussi Carlo Ancelotti. Incroyable. Incroyable. Faut qu'il fasse quoi comme score? C'est juste une victoire et c'est bon? Vous allez me le dire, ça, c'est ce que je cherche dans l'article. Il faut une victoire, ils vont en huitième ou c'est plus compliqué? Ou il y a un match retour ou alors comment ça se passe? C'est plus compliqué? Ah, Moulbit me dit une victoire, c'est en huitième. Ah, mettez-vous d'accord. D'ailleurs, il y a eu un petit drama aujourd'hui, me dit Arobaz, à l'arrivée des joueurs du Real. Un policier s'est plaint de leur manque de volonté quant à saluer les supporters présents. Certains jeunes ont même séché les cours. Bon, sécher les cours, c'est pas bien déjà. Mais oui, d'accord, je comprends. Bah, il a raison, ce policier. Ils sont qualifiés en barrage s'ils perdent. Donc, c'est pas fini s'ils perdent. Ok. Donc, s'ils gagnent ce soir, ils vont en 8e directement. Sinon, ils sont qualifiés en 16e. Waouh! C'est top. Ce serait fou. Ok, bah grâce à vous, j'ai tout compris. Vous êtes des goats, en vrai. Voilà, je savais que j'allais pouvoir profiter de vos lumières. Du coup, les barrages dont vous parlez, c'est les 16e de finale, c'est ça? Ce qui est pas mal, en vrai. Merci, Monstro. Trop intéressant. Les règles étaient simples à la sortie du bus, pas d'interaction avec le public. Ouais, bah, bon, allez, les. Un petit coucou, un petit non? Non? C'est pas les 16e, ici il n'y a pas 16 matchs, c'est des barrages, d'accord, ok. Ok! En fait, les 8 premiers de la première phase sont exempts d'un tour. Bon, je fais mine de comprendre, je comprends rien, mais ok, d'accord. Ok. On finit avec du cinéma, puis après je vais aller me reposer un peu, puisque. Je voudrais être au top du 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 top de ma forme à 18h pour MVP sur ma chaîne avec donc mon émission qui explore les voies professionnelles pour que chacun puisse trouver la sienne avec quand même un invité exceptionnel, l'humoriste, le comédien, l'animateur, Manu Payet. Voilà. J'ai regardé son spectacle, son dernier spectacle hier, c'était super. Et juste avant. En gros, 18h, 19h30, et puis 19h30, Manu Payet, 18h, vous avez une super émission avec le pilier Ludovic B, avec Étienne Moustache et Anna Honner. Une émission où on va beaucoup parler de bagnole aujourd'hui sur les métiers de l'automobile, des carrières qui roulent, excellent jeu de mots, vers l'avenir. C'est sur quelle plateforme, Sarah? C'est une plateforme un petit peu indé que tu connais peut-être pas. Une petite plateforme qui commence à creuser son truc qui s'appelle Twitch. Twitch. Voilà. Voilà. Donc ça va être bien. Donc du coup là je vais aller me reposer, je vais me faire beau aussi, puis j'ai des trucs à faire avant. Je vais vous lire un 13h, ouais. Je vais peut-être faire une petite sieste. Ouais. Vous connaissez pas Twitch? Ah c'est un truc incroyable ça. Je connais pas, trop jeune, trop niche pour moi, un truc de jeune, ça Twitch. Si Twitch. Si Twitch, c'est le truc. Y a un espace où les gens ils écrivent des trucs. Un peu comme sur le Minitel, mais ça va plus vite. Vous voyez ou pas? Twitch. Oui, Twitch. Tou. Itch. Twitch, non pas Twitch. Twitch. Touitch. C'est comme un Minitel. Mais qui va plus vite. Ouais. Ça, c'est lié à tout ça. Hein. C'est sûr. Non pas Wish. Twitch. Twitch. On finit avec du cinéma. Avec. Ce film qui revient sur les années de jeunesse et d'explosion de Bob Dylan. Qui en parle ce matin? Est-ce que c'est Libération? Non. Est-ce que c'est La Croix? Oui, c'est La Croix. Ouais. Non, Bob Dylan, pas Robbie Williams. Let's go. La Croix, où es-tu La Croix? Ici. Ok, Bob Dylan, tu es page 16. Let's go. C'est bien, mais comme ça qu'on feuillette un peu le journal, vous voyez tout ce qu'il y a, tous les articles que je vous lis pas, vous voyez que je ne vous lis qu'une toute petite partie des articles. Brooklyn, tu seras là vendredi? Trop bien. Bob Dylan, météore de la musique, consacré aux 4 ans qui ont fait de Bob Dylan un mythe, un parfait inconnu, c'est le titre du film, montre sans le percer le mystère d'un créateur rebelle et génial, jouant et chantant. Waouh, ah oui, c'est lui qui chante. Waouh. Son rôle, bon, ça m'impressionne ça. Son rôle avec un rare mimétisme, Timothée Chalamet, impressionne. Inconnu, superstar, renégat, Bob Dylan passe par ces trois étapes pour devenir un mythe, en se concentrant sur les années décisives 61-65 qui ont transformé Robert Zimmerman en Bob Dylan, un parfait inconnu captif par la fulgurance d'une trajectoire artistique hors norme. Intéressant. Prodigieux caméléon, Timothée Chalamet est donc Bob Dylan avec une véracité saisissante. Au-delà de la ressemblance physique, vêtu à l'identique de l'idole jusqu'au moindre blouson en daim ou casquette et limier, il incarne son mutisme ombrageux, ses mimiques, ses bouderies, ses fulgurances et son arrogance égoïste refusant toute autre boussole que sa musique. L'acteur de Dune chante lui-même tous les grands titres du rôle d'une voix de tête nasillarde comme son modèle. C'est ouf en vrai, c'est ouf. Il y a Edward Norton également qui joue dedans. Il y a Monica Barbaro qui joue John Pez. Bah, la croix totalement sous le charme. Je vous lis la fin de l'article. Ça a l'air ok. Hein. Merci Alexandra. En remettant dans leur contexte et sur nos platines une dizaine de titres, dont Blowing in the Wind, Mr. Tambourine Man, Hard Rain's Gonna Fall, The Times They Are Changing, le film livre le récit d'un moment clé de la musique, mais se garde d'essayer de comprendre le processus créatif de Dylan. Une chanson n'arrive pas sur le palier, on lui ouvre la porte, ce n'est pas si facile, vous voulez en écrire qui soit grande comme la vie, hein, disait Dylan, qui est prix Nobel de littérature. Je ne sais pas si vous savez. Dans le film, ses chansons jaillissent déjà prêtes pour le monde, en montrant sans l'expliquer ce fascinant surgissement, un parfait inconnu, c'est donc le titre du film, respecte le mystère d'un génie impénétrable. En vrai, ça a l'air cool. Hein. Bon, moi, je ne connais pas trop Bob Dylan, je ne connais pas trop l'artiste, je ne connais pas trop ses chansons, je ne connais pas trop son histoire. Si j'ai un peu de temps, c'est un film que je regarderai sans doute, quoi. Ouais. C'est pas mal, hein. Et manifestement, c'est très bien incarné par Timothée Chalamet. Top. All right. Bon, les amis, petit stream tout chill ce matin de 2h42. Voilà. On se retrouve à 18h. On se retrouve également, je compte sur vous parce que là, on a bossé là-dessus. On se retrouve aussi, où est-ce qu'est le visuel ? Vendredi. À 20h, il était un jeu avec Disney+. Un jeu, un quiz dans l'univers de Disney+, des épreuves, une énorme surprise au milieu, un truc bien cool. Voilà. Et ça, je vais travailler dessus là, demain et vendredi également pour voilà, que ce soit bien, que ce soit chill, qu'il y ait une bonne ambiance. Donc, je vais bien bosser la mécanique, les questions, il y a les épreuves. Ce sera vraiment un super beau stream. Ce sera vendredi à 20h, je compte sur vous. On va faire un petit raid, bien sûr. Je vous dis à tout à l'heure, 18h. Merci pour ce matin. Je me suis régalé. C'était cool. Il y aura une revue de presse demain matin. On se retrouve demain matin. On se retrouve également vendredi matin. Je vais essayer de vous faire deux revues de presse. Merci Cocoviette pour le 36e mois. 36e mois, c'est beaucoup quand même. Mais non, c'est pas fini, GTA. C'est pas fini. Mais on peut pas tout faire, quoi. Qui est en live? On va aller voir. Salut, c'est Nrock. Right. All right. OK. Ouais. J'ai peut-être une idée là. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je regarde tous les gens que je follow là. Oh. OK. Il y a plein de belles choses hein. Je regarde. Hein. Oh. Ok, c'est pas souvent que je les vois en live. Je vous parlais de l'humanité. Je vous parlais de l'humanité qui stream, le journal de l'humanité. Libération s'est lancé sur Twitch aussi. Donc ils peuvent pas streamer trop souvent parce que bah, il faut des moyens humains, c'est compliqué. C'est des journalistes qui sont mobilisés par ailleurs sur ils ont déjà un boulot. Donc je crois qu'ils font deux streams par semaine et je vois que Libération est en live là. Donc Libé, éducation à la sexualité. On décrypte ce programme violemment attaqué par l'extrême droite en direct sur Twitch. Bah, voilà, on va aller plus loin que ce qu'on a fait sur le sujet, sur ce sujet qui nous a intéressé tout à l'heure. Donc du coup, c'est totalement pertinent, on va rester là-dessus. Libération. Et puis Libé, c'est des gars bien, c'est des gars sûrs, ils méritent le soutien. 55 viewers, ça mérite de la force. Voilà. Et puis, ils ont une approche par rapport à Twitch qui est vraiment, qui est vraiment bien. Quoi. C'est parti pour le raid. Une pensée pour Sophie, bien sûr, bien vu. Je vous retrouve à 18h et demain matin. Merci pour ce matin, c'était bien cool. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.